vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà de gauche.
Salut tout le monde, c'est Abdallah, vous écoutez Banquette, votre podcast de foot, culture et société. On est de retour cette semaine avec une nouvelle table ronde et on va poursuivre notre série de du Frankenplayer, soit le joueur idéal. Après les défenseurs, place aujourd'hui au maître de l'entrejeu, les milieux de terrain. Et on parle dans cet épisode des milieux de terrain défensifs ou relayeurs, la précision étant extrêmement importante. Pour rappel, l'idée des épisodes Frankenplayer nous vient du bouquin de Chi Serrano, Basketball and Other Things, A Collection of Questions Asked, Answered, Illustrated, un super livre dans lequel l'auteur s'est amusé à composer son Frankenplayer, le joueur de basket idéal selon plusieurs catégories. Aujourd'hui, à mes côtés dans cette table ronde Frankenplayer spécial milieu de terrain, Damien Doll, journaliste box-to-box à Libération, avec qui je partage l'amour de la NBA, mais pas du tout celui qu'il porte pour le PSG. Salut Damien.
Salut.
Ça va ?
Très bien, très bien.
Bon, hâte de t'entendre faire ton Frankenplayer.
C'est bon, j'ai mis un Marseillais dans la liste, c'est bon, tu vas être content.
Moi, j'ai mis des anciens Parisiens aussi.
Bon, tu vois, c'est l'amour.
Exactement. Autour de la table également, David Honora, notre spécialiste cinéma, créateur de la superbe carte Movieland et qui a la particularité d'être un des rares à supporter l'Olympique Lyonnais avant leur premier titre en 2002. Salut David.
Salut Abdallah.
Ça va ?
Ça va bien, ouais.
Bon, tu nous as mis combien de Lyonnais là, dans ton Frankenplayer ?
Il y en a quelques-uns,
Plus de la moitié ou pas ?
Non, moins de la moitié quand même.
Ah, très bien, très bien. Et enfin, Maxime Dupuis, qui sera à la pointe basse de ce milieu à 3 en sa qualité de rédacteur en chef adjoint d'Eurosport.fr, parce qu'il fallait quelqu'un qui assure les montées verbales de ses deux collègues. Salut Maxime.
Salut.
Ça va ?
Ça va très bien.
Quoi de neuf chez Eurosport ?
Que du bon.
Que du bon, que du bon. Alors, avant de commencer, je vais énoncer les règles du Frankenplayer pour que tout le monde comprenne bien. Il faut un joueur par catégorie pour le milieu de terrain, donc pas possible de faire 50-50 entre Xavi et Iniesta. Deuxièmement, le joueur choisi doit avoir joué au minimum 10 matchs à ce poste. Donc ceux qui ont pris Francesco Totti en sentinelle lors du match de Coupe du Monde Italie, je ne sais plus quel pays d'ailleurs, en 2006, donc ce n'est pas éligible. Et enfin, pour les caractéristiques techniques, on assume que c'est pendant le prime du joueur. Donc, si l'un d'entre vous a pris Claude Makélélé, on est d'accord que ce n'est pas le Claude Makélélé en fin de carrière au PSG. Voilà. Comme ça, tout le monde est d'accord. Donc, chacun de nous y allait de sa petite composition. Ensuite, libre à vous de faire le portrait du milieu de terrain parfait selon nos critères. Et si jamais il y a des catégories que vous souhaitez rajouter, n'hésitez surtout pas. Bref, on commence tout de suite, messieurs, avec la première catégorie qui est le nom. Quel nom avez-vous donné à votre milieu Frankenplayer ? On va commencer avec toi, Damien, si tu veux bien.
Écoute, en fait, ça n'a pas été très facile. Ça n'a pas été très facile. Parce que en fait, finalement, j'ai même pas compris en fait, la question quand on disait le nom du milieu défensif ou du milieu relayeur.
Ah, dès le début, tu fous la merde. Là.
Non, tranquille, non, mais c'est la seule fois que je vais dire ça. Mais finalement, je me suis arrêté sur Claude Makélélé parce qu'en fait, c'est tout simplement quand moi, j'ai grandi en tant que, voilà, en tant que footballeur, en tant que fan de foot. C'est un peu l'image alors du coup du côté 6 et pas du côté 8 que j'avais, voilà, le joueur parfait. Donc du coup c'est le nom en fait qui, quand j'imaginais, quand je pensais 6, quand je pensais milieu défensif, c'est le nom qui rentre toujours dans ma tête en fait, limite en premier.
Ouais, c'est voilà. Un bon choix. Vous en pensez quoi? Bah tiens David, t'en penses quoi de ce choix là
Ouais, ça sonne bien, c'est un nom qui claque, qui fait un peu peur. Ouais. Bon, c'est lié forcément au joueur, mais je trouve ça pas mal. Ouais.
Puis même ce surnom là, ce diminutif Maké qui est resté après, Maxime, tu valides Claude Makélélé en nom?
C'est validé complètement, voilà. Cool. Makélélé sur le prime de sa carrière justement, c'est un joueur immense, on l'a vu avec l'équipe de France, on l'a vu à Vigo à l'époque et puis au Real évidemment.
Et toi, t'as pris qui et t'as choisi quoi comme nom pour ton milieu de terrain?
Alors moi, j'ai pris le footballeur total, le milieu de terrain total, Steven Gerrard, tout simplement. Parce que pour moi, Steven Gerrard, c'est le milieu de terrain par excellence. Il sait défendre, il sait jouer court, il sait jouer long, il sait tacler. Il a juste trois défauts, les glissades, les passes en retrait des fois mal ajustées, ouais. Et d'être fan de Phil Collins. Sinon, pour moi, il est parfait.
Donc, t'as pas mis Steven Gerrard dans une autre catégorie?
J'aurais pu le mettre partout, mais j'ai évité de le mettre ailleurs.
D'accord, donc t'as pris le nom, ouais.
J'ai pris le nom.
Bon, très bien. Et David, et toi, ton nom?
Ouais, moi, pour le nom, donc j'ai pris un nom qui n'existe pas parce qu'en fait, je me suis inspiré d'un tweet que j'ai vu qui a pas mal tourné et qui disait qu'en gros, si N'Golo Kanté s'était appelé N'Golito Cantegas et avait été un milieu de terrain blanc espagnol, tout le monde serait d'accord pour dire que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et en fait, je trouve que N'Golito Cantegas, c'est assez parfait comme nom. Donc on va partir là-dessus.
C'est génial. Ah, vraiment, c'est génial. Bah écoute, moi, c'est beaucoup moins fun. J'ai pris Zé Roberto, pour ceux qui se rappellent, qui jouait dans le championnat d'Allemagne. Voilà, moi, j'ai toujours aimé ce nom Zé Roberto. Et de là d'où je viens, dans ma banlieue, dans les Yvelines, à une époque, on disait Zé, c'était quelqu'un qui n'était pas très, très bon. On disait ouais, tous Zé. Et lui, c'était l'inverse, qui était vraiment très bon. Donc voilà, Zé Roberto pour le petit souvenir d'enfance. On va ensuite enchaîner avec le visage. Important. David, quel
moi,
visage a N'Golo, ce fameux N'Golo?
Je sais pas si ça va bien avec son nom. C'est dur à dire, N'Golito Cantegas.
Ah, j'arrive pas.
Moi, j'ai pensé à l'après-carrière, donc je me suis dit, avoir le visage de Beckham, c'est peut-être pas mal pour après vendre des slips et tout ça. J'ai misé là-dessus. C'est plutôt une valeur sûre, à mon avis.
La reconversion.
Voilà.
Ouais. Maxime?
Eh ben, moi, je pouvais pas faire plus éloigné. Ça reste en Angleterre, mais j'ai pris Dennis Wise. Alors pourquoi Dennis Wise? C'est pas tant en fait pour son visage, c'est pour ses yeux. J'aurais aimé une catégorie les yeux d'un footballeur, parce que quand vous regardez Dennis Wise, des petits yeux de psychopathe, voilà. Ça résume, il suffit de voir ses yeux pour comprendre qu'il est le joueur, et en effet c'est un psychopathe, le type que tu veux pas croiser à Londres le soir. Il a joué à Millwall, il a joué à Wimbledon avec le Crazy Gang, et à Chelsea, voilà. Donc pour moi c'est le visage, je vais dire le visage de la méchanceté, le type que je veux pas avoir dans mon dos sur un terrain de foot.
Ouais, rien à voir avec David Beckham quoi.
À peu près rien à voir.
Bon, Maxime, t'es dans l'entre-deux? Pardon, Damien, t'es dans l'entre-deux?
Non, je suis pas dans l'entre-deux, je suis plutôt dans la catégorie mec qui fait peur, parce que j'ai choisi Gattuso. avec ses, voilà, enfin, notamment les matchs, il y avait des matchs où il pleuvait, par exemple, il avait ses cheveux là qui arrivaient, même avant son crâne rasé, etc. Voilà, donc t'avais un visage où, quand il était en train de faire, bon, là, on est là, on enregistre, donc on voit pas, mais quand il faisait son truc avec les mains, là, où qu'il était devant l'arbitre ou devant un autre joueur, et, ou juste après avoir fait un gros tacle, etc. C'était, voilà, c'était, donc du coup, j'ai cette image là, voilà, de ce visage pour moi du mec qui va tout charcuter, quoi, tout simplement.
Ouais, bah ouais. Moi, j'ai pris un deuxième Brésilien, Luis Gustavo, qui joue actuellement à l'OM, parce que, pas le Luis Gustavo qui est en Allemagne au début, il y a une vraie transformation entre celui qui joue en Allemagne et celui qui joue à l'OM maintenant. Je trouve que maintenant, il a un visage beaucoup, enfin, il est beaucoup mieux, quoi, avec sa petite moustache et tout, qui donne ça, un petit cachet, je sais pas trop. Moi, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, en plus d'être un excellent joueur cette saison. Il a vraiment, je trouve, une bonne tête. Donc voilà, Luis Gustavo, ça change de vos bouchers, Damien et Maxime.
En plus, il fait des pubs sur Winamax où il embrasse son téléphone. Là, voilà. Ça change des bouchers, oui.
J'ai failli le prendre, Luis Gustavo, pareil. En plus, il est bien dans la tradition des Brésiliens marseillais qui sont des Brésiliens à part. Il y a les Brésiliens du Paris Saint-Germain qui sont des joueurs clinquants. Et les Brésiliens du Mans de Marseille, c'est Moser. C'est Luis Gustavo, c'est Brandao, c'est des joueurs beaucoup plus durs. Ça correspond aussi à la Grinta du coin.
Effectivement, bah, on va rester avec toi, Maxime, sur... la coupe de cheveux.
Alors, la coupe de cheveux, il fallait que je le place un moment, c'est David Beckham. Alors, David, je suis désolé, voilà. Là, je change complètement d'avis. Alors, vous allez voir, je fais beaucoup vers l'Angleterre, malheureusement, mais bon, ça fait trois Anglais déjà. David Beckham, pourquoi? C'est le David Beckham du Real. Alors, il a eu les cheveux longs, il a eu le catogan, il a eu les cheveux rasés, il a eu la petite raie sur le côté. Voilà, on peut lui mettre un sac poubelle sur la tête.
Ouais, il a tout fait.
Ouais. Tout lui va bien.
C'est Paul Pogba avant l'heure, on peut dire.
Ouais, voilà, voilà, c'est exactement ça. Après, ça part un peu plus dans les choses un peu folles au niveau de la coupe de cheveux. Voilà, c'est, pour moi, c'est pas une coupe de cheveux, mais c'est David Beckham.
L'ensemble.
Ouais.
David?
Moi, pour la coupe de cheveux, j'ai plus pensé à la couleur de cheveux et j'ai choisi Paul Scholes parce qu'il n'y a pas assez de roux dans le football. Et ça, il fallait que mon milieu.
Précision pour les auditeurs.
Bah, je suis roux, ça voilà. Se voit pas dans le podcast. Mais voilà, donc Paul Scholes, bon, qui évidemment a plein d'autres talents que sa couleur de cheveux et aurait pu être dans pas mal de catégories, mais je me suis dit que c'était pas mal de le citer là.
Damien. Pour la coupe de cheveux, j'ai pris Kanté.
C'est efficace.
Parce qu'il a pas de coupe.
Parce qu'il a pas de coupe.
Et
déjà.
Bon après il a un crâne voilà très intéressant. Mais du coup non en fait c'est surtout qu'en fait le milieu défensif souvent on l'imagine. Enfin j'imagine moi le mec besogneux en fait le mec qui a pas le temps de se coiffer qui a pas le temps de réfléchir à son apparence qui a pas le et en fait bah quoi de mieux que quand t'as
pas de cheveux.
Voilà bah du coup t'as pas de cheveux et c'est peut-être aussi l'influence Makelele qui a joué encore là-dessus. Mais du coup voilà c'est le milieu défensif encore une fois c'est pas du côté 8 mais du côté 6 voilà.
Ouais, très bien voilà. ça se défend, c'est bien de représenter les chauves dans les Franken players. Bah moi j'ai pris l'inverse complètement de N'Golo Kanté, c'est Edgar Davids. Alors, ces cheveux-là, pour moi, ça a hanté toute mon enfance. Jaquette de FIFA, les vignettes Panini, enfin bref, même les résumés dans Téléfoot. Enfin, regardez-les, j'étais trop fan. J'aurais pu mettre la catégorie accessoires, j'aurais mis ses lunettes direct. Et bon, là, les cheveux, donc c'est longue tresse, il a grêlé ça, je crois, toute sa carrière d'ailleurs. Et enfin, j'adorais le voir jouer juste pour ça, en fait. Moi, je me foutais de ce qu'il faisait sur le terrain. Je voulais juste le voir courir pour voir ses cheveux bouger et tout. Moi, j'adorais ce joueur juste pour sa coupe de cheveux. Il aurait pu être nul que je l'aurais aimé quand même. Voilà, voilà, je le dis, c'est ma déclaration d'amour à Edgar Davids. Et on va enchaîner maintenant qu'on a fait le visage, les cheveux, le nom. On va passer au numéro du joueur. Donc, c'est, je pense que ça va être un peu plus simple. On reste avec toi, Damien.
Bah, de toute façon, on avait le choix entre pas deux, mais bon, parce qu'il y aurait pu y avoir des joueurs un peu historiques qui prenaient pas les numéros habituels, mais c'est évidemment le numéro 6, puisque voilà, c'est un numéro comme le 9 ou comme le 10. Bon, dans mon précédent podcast, vous parliez du 5. Mais je trouve que 6, 9, 10, en fait, tu vois direct à quoi ça fait référence n'importe quelle personne qui a commencé à jouer au foot. En fait, le 6, 9, 10, c'est le tir, c'est gagnant, et le 1, évidemment.
Mais saison, le 6, c'est le milieu défensif.
Oui, pardon, oui, excuse-moi. Oui, voilà, donc le milieu défensif, et donc du coup, là, je n'ai même pas réfléchi une seule seconde. Voilà, c'était pour moi, c'était le 6 direct.
Bon, entre David et Maxime, qui a été un peu plus original
Moi, il n'y avait pas non plus de discussion. Pour moi, c'était le 8.
On est ensemble.
C'est une autre sensibilité de milieu. Alors, ouais. Évidemment, en tant que Lyonnais, pour moi, le 8, avant tout, c'est Juninho. C'est resté. Et dans le club, que ce soit Tolisso ou Aouar, je trouve sont plutôt à la hauteur de l'héritage de ce numéro-là. C'est aussi le numéro de Gerrard avec Liverpool. C'est un numéro qui même graphiquement je trouve est beau. Il y a cette forme un peu infinie. Il y a un truc je trouve assez mythique avec le numéro 8 et qui est effectivement moins le milieu défensif et plus le relayeur, ouais, ou un peu offensif.
C'est ce que j'ai mis, ouais, relayeur. Et est-ce que tu es en train de dire que le 8 à Lyon, c'est un peu le numéro 7 de Manchester?
Pour le moment, il faut le porter, quoi. C'est sûr que dans la lignée, si en plus Juninho finit par revenir au club, un de ces quatre, c'est un truc assez mythique comme numéro, et puis derrière ils ont fait plutôt honneur.
Maxime, ton numéro?
Je vais pas être très original, je vais dire le 8 parce que Gerrard tout à l'heure, ouais. Et puis parce que je trouve que ça fait le lien entre le 6 et le 10, voilà. Au milieu t'as le 8, ça correspond bien à l'idée que je me fais du milieu de terrain que j'aime, c'est-à-dire le mec qui est un peu entre les deux, le vrai relayeur. Voilà, j'aime bien. Alors, j'ai une petite sympathie aussi, bizarre. Pourtant, je suis assez traditionnaliste sur le numéro, sur le 4 au milieu aussi. Je ne sais pas pourquoi, ouais. Je trouve qu'il y a un truc qui en jette. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans cette explication-là, ça vous rappelle une petite analyse.
Tu pensais à qui comme joueur?
Vieira, par exemple. Ouais. Mais non, je ne sais pas, j'aime bien. Je trouve que c'est assez classe, le 4 au milieu de terrain. Mais voilà.
Bon, je tiens à faire remarquer qu'il y a 3-8 autour de la table, donc David, Maxime et moi. Ce qui,
à mon avis, estates, trois
ouais, estates, exactement ce que j'allais dire, trois estates.
Et un boucher, d'accord, j'ai compris.
Et un boucher, c'est ça. Et on enchaîne avec, donc il y a le numéro et ce qui est sur le maillot et la manière de porter ce maillot, comment votre joueur le porte. Maxime, on reste avec toi.
Alors moi, j'ai commencé à réfléchir à un type qui a le maillot en dehors du short, parce que je trouve que c'est assez classe. Généralement, ça va aussi avec les bas qui sont descendus. Et j'ai pensé bêtement au Néerlandais, à Johan Neeskens. Il se trouve que Neeskens, finalement, il porte pas toujours le maillot en dehors du short. Des fois, il est rentré, notamment Cougnon 74, je crois qu'il a le maillot dans le short, mais ça le fait quand même. Donc, il a une allure générale qui est plutôt classe. Je pense que c'est lié au maillot, c'est lié aussi à la coupe de cheveux, au flaquette à un moment. Voilà, moi, je donne Neeskens parce que, en gros, qu'il ait le maillot dans le short ou en dehors du short, ça le fait.
Donc, Neeskens, c'est un ancien grand joueur des Pays-Bas, exactement, des années 70, ouais. David, comment porte ton...
Moi, j'ai pensé à un détail du maillot qui m'avait marqué. C'est Patrick Vieira qui avait toujours sur le torse
Encore une fois, on est ensemble.
Une sorte de pommade.
Exactement.
Je trouve ça mythique, en fait.
Exactement. C'est trop mythique. Ouais,
Il a mis une tache
au niveau.
Et je crois que j'ai cherché un peu. Je crois que c'est un truc, une sorte de pommade pour se déboucher.
Pour donner les marches.
Bah ouais, c'est du Vicks,
ouais. Ouais, c'est du Vicks. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, il se le mettait pour se déboucher les bronches, pour pouvoir mieux respirer.
Mais il m'a fallu des années pour savoir ce que c'était. Je trouvais ça trop étrange. Je pensais que c'était de l'eau qui mettait...
Ou qui se mouchait dedans. Ouais. C'était vraiment bizarre. Quoi.
C'était un peu dégueu quand même, on va pas se mentir. Mais cette tâche-là, si vous voyez pas de quoi on parle, je vous invite à taper Patrick Vieira sur YouTube et vous verrez facilement, ou tâche de maillot, Patrick Vieira, tâche de maillot, vous verrez.
Alors, Maxime. C'est marrant, j'ai souvenir de la tâche de maillot sur le maillot d'Arsenal, pas sur l'équipe de France.
Ça dépend à quelle époque. La Coupe du Monde 2006, et surtout le, je sais plus. Enfin, il y a un maillot, je sais plus quel. Lequel
c'est 2006 mais... alors parce qu'avant, j'ai pas souvenir de ça.
Avant, je sais pas, mais moi, j'ai déjà vu Patrick Vieira avec cette tache en équipe de France.
Sur le rouge, ça sort mieux.
Par contre, à l'Inter, je sais pas. Peut-être que ça se voyait moins.
Mais, aussi. Pareil, mais à l'Inter aussi, j'ai vu des photos aussi où il y avait ça.
Maxime,
tu vois, on se connaît depuis 10 minutes, mais tu as appelé Maxime pendant tout le podcast quand même.
Oh là là, je suis désolé, Damien, je suis désolé.
T'inquiète, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai aucun avis sur votre débat, parce que je m'en souvenais à peine de ce détail sur Vieira. Mais j'ai choisi un ancien Marseillais, donc du coup, je vais me faire évaner par mes potes marseillais agresser par mes potes parisiens.
T'inquiète, je suis là pour te défendre.
D'accord, ok, oui, mais tu ne seras pas là après. c'est Lucho González. Parce qu'en fait, j'ai hésité avec Redondo. Tout vous dire. Et en fait, il y a ce truc-là, en fait, de. Donc, Lucho González, en fait, il est longiligne, il a un maillot qui est. En fait, il a une prestance. Ben, son seul défaut, c'est d'avoir joué à Marseille, mais du coup, en fait, voilà, il a quelque chose qui dégage, en fait, et notamment par la manière de porter son ballon, porter son ballon aussi, par ailleurs. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais hésité avec un, mais c'est un autre Argentin qui a récupéré le trophée suivant, mais voilà, j'avais hésité pour ces deux catégories-là, mais Lucho González, pour moi, est un petit peu, voilà, le mec auquel j'ai pensé,
Damien, la transition est toute faite pour l'élégance sur un terrain, donc je vais commencer. Ce que j'ai mis, Lucho González, justement, ancien joueur de l'OM, comme tu l'as dit, et avec cette élégance de porter le maillot et balle au pied surtout. Quand il arrive à l'OM, vraiment, c'était un régal de le voir jouer. La manière qu'il avait d'avancer sur le terrain, il était tellement beau. Et je pense aussi que c'est un joueur, au-delà de l'aspect esthétique qu'il avait sur le terrain, qui a fait passer un cap à l'OM, donc Deschamps, c'est la première saison de Deschamps, et je pense qu'il a fait passer un cap à ce club qui en plus a été champion cette année-là. Donc pendant la période où il est resté à l'OM, vraiment j'ai adoré ce joueur élégant sur le terrain, très beau à voir jouer, même avec une coupe de cheveux incroyable et tout. Alors qu'on avait un maillot dégueulasse à un moment, le noir, je sais pas si vous rappelez, que je trouvais dégueulasse, mais lui, il le portait bien. Donc Lucho González sur l'élégance sur le terrain. Maxime.
Et moi, j'adorais le voir avec ses manches. Il naît ses manches aussi quand il jouait, il tirait son maillot, c'était assez magnifique. Moi, je suis allé. Alors, je vais être hyper classique. J'ai pris Xabi Alonso parce que là, c'est l'élégance incarnée. Il devrait même pas être en short, ce mec-là. C'est en costard. Si un jour il y a un film sur lui, c'est Brad Pitt, je pense, parce que il est fabuleux. La barbe bien taillée, la coupe de cheveux propre, et sur le terrain, c'est un port altier toujours, mais sans arrogance. C'est-à-dire qu'il se tient droit, même quand il défend, il est élégant. Les frappes de balle, j'en parle pas. Donc, pour moi, c'est vraiment l'espèce. Alors, c'est marrant parce qu'on a eu les milieux de terrain espagnols plutôt petits, un peu, rabougris. Lui, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment la classe incarnée.
David, l'élégance sur le terrain
Moi, pour l'élégance sur le terrain, j'ai pensé à Pogba. En fait, j'adore la manière dont il se tient et sa manière de bouger, de marcher. En fait, c'est même à tel point que, par exemple, sur FIFA, j'adore jouer avec lui parce que l'animation de ses mouvements est hyper bien rendue et il y a un truc. C'est vraiment un joueur différent. Et puis, j'ai un souvenir de la demi-finale de l'Euro. J'étais au Vélodrome dans le virage au moment où il fait son petit. Enfin, il fait les deux pas, tu vois. Pour avant de centrer pour Griezmann, et cette image de le voir faire ça, je l'oublierai jamais, et c'est vraiment un mec qui, je trouve, et peut-être on peut lui reprocher ça parfois, on fait trop par élégance, quoi. Enfin, il a vraiment un souci de, je trouve, d'être beau sur le terrain,
du beau geste, du truc
de rarement faire des trucs bourrins, je trouve, enfin, c'est vraiment un joueur qui est très très agréable à voir jouer, je trouve.
Très bien, Pogba, j'y aurais pas pensé. Moi, j'ai pas réussi à le mettre, je l'annonce, dans mon Frankenfeuer. J'ai pas du tout réussi à le mettre, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que vous avez réussi dans d'autres catégories. Damien, l'élégance sur le terrain.
Moi, c'est le joueur d'une équipe que j'ai adoré voir, qui est la Lazio fin années 90, début 2000, c'est Juan Sebastián Verón. Voilà, alors il a joué pas mal de matchs en espèce de faux 10 bizarre, mais il a joué quand même beaucoup, enfin, la plupart de ses matchs quand même en 8. Et sa petite boucle d'oreille, c'est la quand il prenait la balle, etc. Enfin, il y a un truc qui se dégageait de ce joueur. J'ai un de mes meilleurs potes qui est un fan absolu de Véron, donc du coup on le vannait parce que limite pour lui Véron c'est plus fort que Maradona et Pelé, donc voilà. Donc du coup, ça a plutôt été un truc de rire dans ma jeunesse, ouais. Mais quand même, voilà, on voulait pas trop le dire devant lui qu'il était beau et bon, mais voilà, c'est, voilà, Juan Sebastian Véron, puis même le nom, t'attends à voir un joueur élégant en fait.
Bon, on reste avec toi Damien sur la prochaine catégorie qui est la célébration de but.
Bon, alors, c'est celle où j'ai le plus galéré, on va pas se mentir. Mais bon, à un moment donné, il fallait que j'en place un petit peu pour les Parisiens quand même. Et puis mon tropisme rap aussi, donc ça va être Matuidi. Ah,
moi aussi.
pour sa célébration, pour le fait que ça a été repris après. Et puis après, en plus, pour le fait que Neymar, en plus, ait repris ce truc-là. Ouais. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça m'a fait, voilà, c'est pas forcément la plus belle, mais c'est une, en tout cas, qui a marqué enfin ces derniers temps en fait dans les célébrations, c'est une de celles qui m'ont le plus marqué.
Voilà. Eh ben on va continuer avec le Charo parce que David, ouais, tu viens de dire ouais, que moi aussi j'ai pris ça.
J'avais pris ça aussi parce que pour les mêmes raisons, enfin je trouve toute l'histoire autour, le fait que ça soit enfin à la fois une référence culturelle, à la fois un truc enfin c'est vrai que c'est pas hyper élégant ce qu'il fait mais c'est unique plus, hein. Quoi, enfin ouais. Il y a un truc. Et pour le coup, Matuidi, enfin moi, en fait, c'est un joueur, bien que ça soit un ancien joueur de Saint-Etienne, c'est un mec pour lequel j'ai pas mal de sympathie. Enfin, je trouve qu'il a l'air hyper, enfin agréable en dehors du terrain. On parlait juste avant l'émission du fait qu'il s'était un peu chauffé avec Cristiano Ronaldo
en
Ligue des Champions, alors que justement, c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir de lui. Et on trouvait ça étonnant. Voilà, donc c'est un mec que je trouve assez sympathique et je trouve que sa célébration, elle est à l'image de ça, quoi.
Ouais. Et puis Matuidi, c'est aussi quelqu'un, en interview, qui donne beaucoup plus que la plupart des joueurs, notamment après match, voilà, quand on est posé, etc. C'est différent. Mais Matuidi, ses interviews d'après match, il n'y a quasiment jamais de langue de bois. Il va toujours, voilà, enfin, il va toujours dire des choses, etc. Donc, ce qui fait que, voilà, en plus, il fallait que je le place, ça sent quelque part Matuidi, parce que c'est un joueur pour lequel aussi j'ai beaucoup d'affection. Et voilà. Donc, du coup, je souscris totalement.
Juste pour finir sur la célébration de Matuidi avant de donner la parole à Maxime, moi aussi, je l'ai mis. Et pour moi, c'était évident parce que, en fait, c'est sa célébration. Elle a été faite, je crois, pour lui. Et c'est son geste. Donc, je sais pas si ça existe vraiment dans le foot, une célébration de but qui est vraiment identifiée à un joueur. Et puis, comme tu disais, David, elle est.
Dans la pop culture.
Ah, c'est ça. Voilà, même quand il l'a fait, c'est pas très bien fait, mais c'est à l'image du genre. En plus, c'est pas très élégant, mais ça marche, ça fonctionne. Et comme tu dis, c'est rentré dans la pop culture. Et donc, toi, Maxime, qui n'a pas suivi le peuple.
Non, moi, au niveau d'élégance, ça va être bien pire. Parce que moi, j'ai choisi une célébration en particulier. C'est Marc Van Bommel en 2007, Real Bayern. Il marque le but du 3-2 à 2 minutes de la fin. Il va vers les supporters madrilènes. Et là, il envoie un gros bras d'honneur à tout le monde. Et à la boîte.
Quelle élégance.
Moi, j'aime bien le football un peu sale. Donc, je trouve que c'est assez.
Mais c'est une bonne célébration
aller,
de milieu.
D'aller célébrer ça, alors qu'en plus, il perd le match. Donc, il a joué à Barcelone un an. On peut pas dire que ça a forcément bien marché. Mais n'empêche, il est à Madrid. Il dit, je leur marque un but, j'y vais quand même.
Au calme.
Et il se qualifie au retour quand même. Et voilà, c'est une marque Van Bommel dans le texte.
Génial. Bon, on va enchaîner avec une catégorie un peu plus quand même élégante que la célébration de Marc Van Bommel, qui est le QI football. David, on va commencer avec toi.
Je sais pas si... Je voyais pas qui citer d'autre que Xavi là-dessus. En fait,
alors, pour moi, je vais te couper avant que tu développes. Qui n'a pas choisi Xavi?
Moi.
Ah bon?
D'accord. Alors... Bon, on va avec toi, David.
Non. Pour moi, c'est un mec qui m'impressionne énormément quand il parle de foot et toute son approche théorique. Enfin, on est presque pressé de le voir entraîner des clubs, quoi. C'est une science du foot qui sait extraordinairement bien retranscrire sur le terrain. Il a construit un palmarès incroyable il est un peu dans cette malédiction justement des milieux espagnols qu'on va sûrement citer tous dans cette liste qui malgré leur succès ont jamais été tant que ça reconnus individuellement. En tout cas, aucun n'a eu le Ballon d'Or. Et lui, en termes de QI football, ça me paraît un incontournable, même si évidemment il y en a d'autres. Après, il y avait aussi un aspect que, en fait, comme on parle des milieux et qu'on mettait de côté les numéros 10, il y a pas mal de milieux où pour moi c'était limite numéro 10. Ouais. Donc voilà, mais lui, en tout cas, Xavi, c'était mon choix pour cette catégorie.
Juste pour en rajouter un petit peu plus sur Xavi, t'as déjà dit beaucoup de choses et je veux pas en dire plus, mais il y a juste lisé son interview dans le SoFoot de Mars, je crois, qui est juste exceptionnel. C'est un numéro qui est consacré à l'intelligence dans le football. Et l'interview de Xavi est juste exceptionnelle. Il raconte comment il s'est construit par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas les qualités physiques et forcément techniques comparées à d'autres. et comment son intelligence lui a permis d'être le joueur qu'il est devenu. C'est juste incroyable. Donc voilà. Bon, moi j'ai hâte de savoir qui vous avez mis, Maxime et Damien. Damien, qui t'a mis dans le QI football, tiens?
Eh ben écoute, j'ai pris Beckenbauer parce que t'avais dit que c'était 10 matchs minimum.
Oui, oui, c'est vrai. Il a
jusqu'à,
joué
jusqu'à 24 ans. Alors après, j'ai fait une petite recherche pour être sûr de pas dire de trop de conneries. Donc jusqu'à 24 ans, en fait, il était vraiment voilà, il était vraiment milieu milieu très reculé. En sélection, enfin, de ce que j'ai compris, encore une fois, moi, c'est pas vraiment ma génération. Moi, je suis en 1985. J'ai vu comme beaucoup de gens des matchs à posteriori, etc. Mais du coup, c'est pas le même souvenir que quand tu les vois, se dérouler en direct. Mais même en sélection d'Allemagne, il continue à jouer milieu défensif. Et puis, bah oui, c'est pour le QI qu'il avait en tant que joueur, c'est-à-dire que ce soit en tant que libéro, en tant que milieu défensif, mais il a, voilà, quand je l'ai découvert, bah après, en fait, il a arrêté sa carrière quand. Après que j'ai commencé à regarder avant que je commence à regarder le foot et je puisse m'en souvenir, mais bah c'était vraiment assez impressionnant. On sentait qu'il comprenait le jeu, qu'il voyait un peu tout, qu'il comprenait tout, et surtout à une époque où les tactiques, la préparation n'était pas aussi développée. Il y a pas de, enfin je sais pas s'il y avait des séances vidéo, en tout cas je pense qu'elle n'était pas du tout aussi développée que celle actuellement. Donc du coup j'ai eu ce truc-là qui m'est resté en tête.
Ouais, Beckenbauer, ça se tient.
Il fait la Coupe du Monde 66 milieu de terrain, d'ailleurs.
Oui.
C'est pour ça qu'il est bon quand il recule, parce qu'il a la vision d'un milieu. Donc c'est...
Ouais. Toi, t'as pas pris Beckenbauer, je suppose ?
J'ai pas pris Beckenbauer, j'ai pris Sergio Busquets.
Ouais.
Parce que, pour la simple et bonne raison que Xavi, j'en avais besoin ailleurs, dans la liste. Et parce que, justement, je voulais rappeler que ce joueur a d'une intelligence folle. On voit ce qu'on veut bien voir avec lui, c'est-à-dire parfois un peu de vis, la récupération, mais c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne. Pour dire que ce type-là, c'est un porteur d'eau entre guillemets au Barça, ça montre aussi le niveau des autres. C'est tout simplement un joueur hyper intelligent, on le voit dans ses sorties de balle. On voit souvent ce qu'il y a juste après, on oublie souvent ce qu'il fait lui, et c'est pareil, je pense que... De toute façon, dans cette équipe du Barça, je pense qu'on peut sortir 7 ou 8 mecs qui deviendront entraîneurs, parce qu'ils ont l'intelligence qui vient de la Masia et de cette culture-là.
Mais c'est vrai que, comme tu dis, sur Sergio Busquets, je pense qu'on lui rend pas assez d'honneur, parce que c'est un pion essentiel de l'équipe du Barça, au même titre que Messi ou qu'Iniesta ou que Xavi en son temps. C'est vraiment un type qui est essentiel au bon fonctionnement de l'équipe, quoi. C'est vraiment la rampe de lancement, quoi, de l'équipe. Donc je suis content que tu l'aies mis. Voilà. Bon. Même si je pense que Xavi, c'est un peu au-dessus.
Ah oui, j'en suis convaincu, mais j'en avais besoin vraiment ailleurs, donc j'étais embêté.
D'accord, on va voir où tu l'as mis. J'ai hâte de voir ça. Et on enchaîne avec le vice. Le vice, tiens Maxime, on reste avec toi.
Alors là, je suis désolé, je vais réutiliser un joueur que j'ai déjà utilisé, parce que là, je voyais vraiment pas...
Tu sais qu'on n'a pas le droit.
Ouais, mais là,
carton jaune.
Ça, c'est carton jaune.
Je veux bien prendre le carton jaune, mais justement, c'est le bon moment. Je veux vraiment le justifier. C'est encore Marc Van Bommel.
Ouais.
Parce que je trouve que sur le terrain, il y a des vrais méchants qu'on voit arriver de loin. Marc Van Bommel, on le voit pas arriver de loin. C'est-à-dire que c'est monsieur tout le monde physiquement. Vous regardez même quand il était jeune, il avait une petite moustache ou ça, vous voyez pas vraiment. Et pourtant, c'est un vrai méchant, un vrai dur. Et il y a ce côté, je vais dire un gros mot, je suis désolé, mais je pense qu'on a besoin d'avoir un salopard comme ça sur le terrain. La grande force de...
Je trouve que c'est un bon salopard.
Je
l'ai mis aussi vers Marc Van Bommel dans le vice aussi.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va parler du PSG, enfin je vais parler du PSG, ils pensent le PSG qui peut gagner par le jeu. Mais non, il faut toujours un mec comme ça. Moi, je dis toujours, on a toujours besoin d'un Van Bommel dans son équipe. Le Barça, là, d'une certaine manière, avec Busquets, il faut un type comme ça. Et je trouve que Van Bommel, il a un rôle social qui est hyper important dans une équipe, avec ce vice qui est quand même dingue. Il le porte pas sur lui, mais quand vous l'avez sur le terrain, c'est un enfer.
Damien, quelque chose à rajouter ?
Disons que quand j'ai vu la liste des catégories, en fait, bon, il y en a un autre qui viendra plus tard, où j'ai d'abord cherché toutes les catégories pour savoir où mettre ce joueur, mais ça, je fais un peu de teasing, ça sera après. Quand je suis passé sur vice, en fait, j'avais déjà dans la tête, en fait, je savais déjà que ça allait être Van Bommel, parce que j'ai que des souvenirs de coups, là, de coups qui arrivent par derrière, de se foutre de la gueule du joueur qui tombe par terre, du coup, le joueur s'énerve, il prend un jaune autant que Van Bommel, alors qu'il a rien fait à la base de joueur à part se prendre un coup. C'est pour la célébration dont tu parles, qui est pas forcément du vice, mais qui c'est un personnage. Enfin, quand tu penses Marc Van Bommel, quand tu l'as vu, je pense que si des personnes n'ont pas vu Marc Van Bommel jouer, si tu regardes des vidéos YouTube de ses belles actions, parce qu'il c'était aussi un très très bon joueur, si tu regardes des vidéos de ses actions, de la manière dont il orientait le jeu, etc., tu vas pas forcément sentir ce vice. Mais toute personne qui a grandi avec ce truc-là de Van Bommel, c'est vrai, je pense que le premier souci, c'est salopard pour.
Mais je crois que c'était le joueur le plus évident. Enfin, en tout cas, quand j'ai fait ma composition, c'était le plus évident dans le vice. Il rentrait pas ailleurs. C'était sûr. Parce que Parce que des fois, il y a des gens qui ont du mal à saisir la différence entre vice et agressivité. Mmh. Et pour moi, il est quand même assez. Le vice est quand même plus dans la subtilité.
C'est insidieux.
Ouais, c'est ça. Et Marlon Baumel, c'était vraiment pour moi le maître dans ça, donc dans le vice. Et toi, David, qui tu as choisi
Moi, pour le vice, j'ai pris Roy Keane, ouais. qui pour moi incarne un peu ça aussi. Enfin, il y a un côté. Effectivement, c'est un peu, ça peut aussi être proche de l'agressivité. J'ai un peu hésité là-dessus.
Moi, je
trouve
beaucoup plus agressif.
mais du coup, voilà. Enfin, j'ai pas énormément développé là-dessus, ouais. Mais voilà, moi, je voyais bien là-dedans.
Et j'avais une question pour toi, Damien, sur Thiago Motta. Est-ce qu'il aurait pu rentrer dans cette catégorie-là?
Alors, on en a parlé juste avant. J'ai dit, j'aime noter Van Bommel. Puis après, je dis bon, il faudra quand même que je cite Busquets et Thiago Motta. Thiago Motta, enfin Busquets d'abord par rapport à sa simulation avec face à Thiago Motta. Oui, bon, bah oui, il met la main sur les yeux en fait et il regarde en fait. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez ce truc-là où il roule et il met la main sur les yeux et il vérifie en fait s'il y a bien faute, si tout se passe bien comme prévu. En fait, il a trop mal puisqu'il n'a pas été touché à cet endroit-là. Et donc du coup en fait, voilà, j'ai mis un peu plus loin, mais de toute façon, mais bon, Van Bommel c'est encore au-dessus. Puis Thiago Motta, oui. Thiago Motta,
il est pas mal, hein.
Ah, le coup, je crois que c'était PSG Montpellier où il fait semblant de mettre un coup de poing, là. Il fait semblant de mettre un coup de poing comme ça. Donc, du coup, t'as tous les joueurs de Montpellier qui dégoupillent, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il n'y a pas le mettre, le coup de poing. Mais c'est sûr, tous les joueurs de Montpellier qui, du coup, sont tous excités, etc. Il arrive à chauffer 5 joueurs d'un coup. Donc, oui, Thiago Motta, voilà, puis on va voir Thiago Motta et Busquets ensemble se faire avoir par son propre. Voilà, c'était.
Et on peut même dire que le vice, c'est aussi une forme de QI football, en fait.
Ouais,
c'est savoir à quel moment faire ses fautes, ses petits coups de vice, quoi. Il faut vraiment les sentir, c'est pas fait n'importe quand, à n'importe qui aussi, c'est faut vraiment le sentir. Et on enchaîne avec le mental. On va rester avec toi, Damien. Le mental, qui est le meilleur mental selon toi?
Bah écoute, j'ai pris Simeone. Peut-être que le fait de le voir sur le banc d'Atlético, ça a peut-être joué aussi dans mon truc, mais tous les souvenirs que j'ai de lui, notamment encore une fois la Lazio. Tournant des années 2000. Voilà, c'est un mec, tu sais que tu peux aller au charbon avec lui, tu sais qu'il lâchera jamais, tu sais qu'il sera toujours là, tu sais qu'il, première minute, 89e minute, bon, bah, c'est, pour lui, c'est un peu la même chose, il va toujours, toujours taper, toujours être là, et voilà. Donc, du coup, un mec, t'as l'impression, voilà, y a pas de saut de, y a rien, il est toujours là, voilà.
Ouais. Toujours là. David, ton joueur?
Moi, sur le mental, j'ai choisi Steven Gerrard. En grande partie pour le souvenir de cette finale de Ligue des Champions où Liverpool est mené 3-0
en
2005. Et puis, il porte en grande partie l'équipe pour revenir et gagner le titre. Malheureusement pour l'Angleterre, il a pas eu autant d'aura et autant de réussite avec la sélection. Mais pour moi, c'est vraiment un modèle de joueur. On disait au début de l'émission que c'était un peu aussi une incarnation du milieu hyper dévoué à son équipe et je pense qu'il avait un apport pendant toute sa carrière mentale incroyable sur les joueurs avec lesquels il a évolué, quoi.
C'est pas pour rien qu'il a été capitaine aussi,
ouais.
Effectivement. Et toi, Maxime, t'as choisi qui pour le mental?
Alors moi, j'ai choisi Didier Deschamps.
Ah, on se retrouve. J'ai hésité avec un autre joueur dont je parlerai après, mais je t'en prie, développe sur Deschamps.
Alors tout simplement, alors moi, je suis né au football au moment où Deschamps commençait sa carrière de joueur. Et j'ai vu un joueur qui, à 20 ans, était capitaine de Nantes, qui est transféré à Marseille, il s'est prêté à Bordeaux, il veut revenir, Tapie n'en veut pas, il arrive à le convaincre de le faire revenir. Déjà, convaincre Tapie, c'est quelque chose. Il devient, capitaine de Marseille à 24 ans, il gagne une Coupe d'Europe. L'équipe de France, au moment où il y a une tournante au niveau des capitaines, il s'impose. En fait, ce joueur-là s'est imposé partout. Sur le prêt, on ne voit pas toujours ses qualités, ce n'est pas évident. Mais on se dit que ce type-là a quelque chose de plus dans la tronche. C'est sûr, il y a quelque chose. C'est pour ça que moi, je m'insurge un peu quand j'entends qu'il a de la chance, etc. Ouais, c'est un mec quand même à part. Partout où il va, il gagne et il n'y a pas de hasard. Voilà, il la provoque pour moi et c'est un mec complètement... Il y a un décalage entre ses qualités, on va dire, purement footballistiques et le mental d'un type qui est hors du commun.
Bah, je vais pas en dire plus sur Deschamps, tu as déjà tout dit, c'est nickel. Et je veux juste dire avec qui j'ai hésité, c'est pas pour des raisons sur le prêt en fait, c'est vraiment vraiment la force mentale dans la vie. J'ai hésité avec Abou Dhabi qui a eu une tonne de blessures durant sa carrière et il est toujours revenu, il a jamais lâché. D'ailleurs, je sais pas trop ce qui devient aujourd'hui, mais pendant longtemps en tout cas, il a eu ses blessures, il est revenu avec Arsenal et après même à Marseille et tout. Et je pense qu'il faut avoir une grande force de caractère pour revenir autant de fois après autant de blessures et se dire je vais continuer à faire mon métier Alors que d'autres auraient pu dire, bon, en fait, mon cœur veut pas, j'arrête, je fais autre chose. Et lui, il a quand même continué. Juste pour ça, j'ai vraiment hésité. Mais Deschamps, comme tu l'as dit, Maxime, pour tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, la force mentale qu'il a eue, c'est énorme. Donc voilà. Est-ce que vous avez hésité avec d'autres joueurs que Simeone pour toi, Damien, ou pour toi, David?
Non, moi, pour le coup, enfin, Gerrard, je voulais le mettre quelque part et c'était mental, c'était là qui me paraissait le plus évident. Après, j'ai pas trop hésité.
Moi, j'ai hésité avec Patrick Vieira, que j'ai mis un peu plus loin, parce que déjà, ça a été peut-être un de mes premiers joueurs vraiment, enfin, des premiers joueurs auxquels je me suis identifié, parce qu'il est légèrement plus grand que moi, voilà, et puis, on ressemble pas trop, mais il y avait un truc qui se dégageait de lui, et puis après, bon, on en reparlera plus tard pour des embrouilles avec un certain joueur que tu as cité juste avant, il y avait un truc qui se dégageait de lui, c'est pareil, où tu, voilà, puis il y a cet Euro 2000 où t'as l'impression qu'il est indestructible.
Bah, tu parlais de l'embrouille qu'il a eu avec un certain joueur. Je te laisse enchaîner.
C'est pour ça que moi,
sur l'agressivité, on va rentrer dans le sale maintenant. Là.
Je trouve que Roy Keane n'a aucun vice. Vraiment, c'est même pas. Enfin, comment dire ? C'est qu'en fait, lui, c'est le mec. En fait,
c'est frontal.
Il se fait blesser par une blessure assez sale. Il revient, joue contre le mec. Il cherche même pas à essayer de comprendre. Il va directement déboîter le mec et lui dire après. Je pense qu'il lui a dit tiens. Mange-toi ça. Et en fait, du coup, c'est vraiment pour moi l'agressivité. Enfin, quand je pense agressivité. Alors, du coup, Vieira aussi aurait pu être dedans. Et voilà, mais c'est. Honnêtement, moi, au moins une fois par an, je tape Roy Keane, Vieira, fight. Parce que ce truc-là, en fait, si tu veux. Alors, je vais pas faire le truc, maintenant, c'est différent, etc. Mais ce truc-là où il s'embrouille dans le couloir, où il s'embrouille sur le terrain, c'est avec Stam qui arrive.
Roy Keane, c'est très, très sale.
Ah ouais, non, c'est très l'agressivité sale de Roy Keane sur un terrain.
David, t'as pris qui comme joueur agressif?
Moi, pour l'agressivité, j'ai pris Gattuso. En fait, c'est même un point où je suis pas sûr d'avoir revu un joueur aussi impressionnant au niveau de l'agressivité depuis quoi. Quelqu'un qui, enfin, t'as l'impression que tu. En fait, peut-être que Kanté a un peu aussi cette agressivité, enfin, je veux dire, dans le jeu, mais en fait, il a l'air physiquement tellement plus gentil que ça donne pas la même impression. Alors que Gattuso, on le disait tout à l'heure, il est flippant physiquement déjà. Ouais. Et en plus, il était toujours sur ton dos, quoi. C'est-à-dire, tu comprenais pas.
On avait l'impression qu'il était toujours vénère.
C'est hallucinant, c'est fou, quoi. Ouais. C'est vraiment. J'ai des souvenirs de matchs où tu le vois, mais tu te dis, mais comment il peut être à la fois là et là, et il s'arrête pas, et il tenait tous les matchs en entier. Enfin, c'est ouais, au niveau de l'agressivité, je trouvais très impressionnant. Ouais,
on a eu deux beaux salopards avec Roy Keane et Gattuso. Maxime, quel est le tien?
Alors, moi, j'ai hésité un moment, mais je me suis dit que j'allais quand même aller sur Roy Keane. Je pensais à Joe Barton, parce que lui, en termes d'agressivité, quand il était en Angleterre, c'était. C'est un must.
Je pense que Ousmane Dabo s'en.
Même en dehors des terrains.
Ouais, voilà. Mais je me suis dit, ma liste était déjà suffisamment sale comme ça. Alors, alors j'ai choisi Roy Keane. Parce que pour moi, Roy Keane, c'est l'agressivité négative, c'est l'agressivité aussi positive. C'est-à-dire que moi, Roy Keane, j'ai une image, c'est un type qui a le poing serré, qui remonte les bretelles de ses coéquipiers ou qui les encourage. Voilà. Pour moi, c'est un type. C'est aussi une machine à gagner. Et il y a ses excès, notamment quand il avait mis fin à la carrière c'est Haaland, je crois, Manchester City, en le taclant sévèrement. Et on l'avoue en 3 ans après dans sa biographie. Voilà. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus avec Roy Keane, c'est-à-dire qu'il est l'équilibre entre le type qu'on ne veut pas avoir contre soi, mais qu'on adore avoir avec soi. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très haut.
En fait, si tu veux, quand t'imagines le Manchester United des années 90, t'as plusieurs personnalités qui reviennent et qui donne l'âme de l'équipe. Donc, tu as évidemment Ferguson, tu as évidemment Giggs. Mais finalement, en fait, Roy Keane, en fait, quand tu imagines Manchester United, en fait, tu imagines une équipe en fait, qui ne va jamais rien lâcher, qui va toujours être dans le combat à tous les matchs, et notamment dans les matchs très importants. Évidemment, Scholes, on en parlera peut-être après, etc. aussi. Mais du coup, Roy Keane, en fait, pour moi, c'était sur le terrain, c'était vraiment l'âme de l'équipe. C'était dans son regard, tu sentais que tu allais passer 90 minutes assez compliquées.
Puis tu peux rajouter un peu plus tôt dans la décennie, Eric Cantona. Quand t'as Cantona et Keane dans ton équipe, quand même.
Ouais. J'ai hésité avec Roy Keane aussi et Gattuso, que t'as cité, David. Mais j'ai pris un autre British, Vinnie Jones. Donc, j'ai une époque très, très sale qui faisait partie d'un groupe qu'on peut appeler, enfin, qui s'appelait le Crazy Gang à Wimbledon. Donc, c'était très, très, très sale. Pour préparer l'émission, j'ai regardé des vidéos.
Ah oui.
C'est incroyable. C'est du découpage, c'est des coups de poing, c'est du trash talk, c'est incroyable. Pour ceux qui kiffent la NBA, il y a eu les Bad Boys de Détroit, donc fin années 80, début 90, et avec Bill Laimbeer, qui était vraiment un boucher, pour ceux qui connaissent. Et pour moi, le Crazy Gang, c'est un peu l'équivalent des Bad Boys de Détroit avec Vinnie Jones à leur tête. C'était juste incroyable. Je pense que dans l'impact, l'impact de son agressivité dans le jeu n'est peut-être pas aussi visible que celui de Roy Keane ou Gattuso, mais c'était vraiment un boucher. Et comme je n'ai pas trop de salopards dans mon Frankenplayer, contrairement à toi, Maxime, du coup, je pouvais me permettre de le mettre là. Ouais.
Et surtout, si vous cherchez justement sur YouTube des vidéos, vous tapez Vinnie Jones Cantona. En fait, il voulait tuer Cantona. C'était son but dans la vie. Et il y a des tacles, des tacles complètement dingues de Vinnie Jones.
Et pour ceux qui regardent les vidéos, on vous rappelle de ne pas faire ça dans la vraie vie. Hein, c'est hyper dangereux. Et donc, on enchaîne sur la puissance de frappe. On va commencer avec toi, David.
Sur la puissance de frappe, en fait, j'avais en tête plusieurs Anglais que j'ai déjà cités, donc que je n'ai pas pu reprendre, que ce soit Gerrard, évidemment, ou même Beckham ou Paul Scholes. Et du coup, j'ai choisi Frank Sauzet. Qui avait des facultés à mettre des petites minaces de temps en temps et en plus j'aime bien si j'avais pas eu N'Golito Kantega j'aime bien aussi son nom parce que ça me rappelle un peu Kaiser Soze à chaque fois que j'entends et du coup associé à la puissance de feu je trouve ça pas mal.
Damien, t'as choisi qui pour la puissance de frappe?
Steven Gerrard, hein, parce que c'est vrai que c'est quand tu penses Steven Gerrard, c'est vrai qu'on peut tous penser à plein de choses, notamment la classe, etc. Liverpool, enfin tu peux, t'as plein d'images, mais c'est vrai que l'image de Steven Gerrard qui prend la balle à 30 mètres, tu sais que ça va se terminer en frappe, c'est que ça va pas se terminer par un décalage sur les côtés. C'est super impressionnant. Puis il y a des buts un peu, quand tu tapes ces vidéos, pareil, Steven Gerrard, Goals.
Ouais, pareil, ouais.
Voilà, c'est.
Allez sur YouTube, pareil, tapez Steven Gerrard, goal, vous verrez des très beaux buts. Maxime, t'as choisi qui, toi ?
Eh ben moi, j'ai choisi Frank Sauzet aussi.
Aussi, ah, aussi. Petite connexion, là.
Voilà, petite connexion. Et pour rappeler une chose aussi, que j'ai toujours trouvé dingue, Frank Sauzet est le joueur préféré d'Andy Murray.
Ah ouais ?
Ouais, parce qu'en fait, il jouait à Hibernian, et Murray est fan d'Hibernian, et c'est son idole absolue. Je trouve ça toujours assez dingue qu'un joueur... un très bon joueur français soit le joueur préféré d'un mec comme ça.
Oui, les anecdotes comme ça dans le football, comme Leroy Sané qui s'appelle Leroy en hommage à Claude Leroy sélectionneur tout court. Voilà. Ouais. Et pour la puissance de frappe, j'ai pris Paul Scholes. J'hésitais pareil avec Gerrard. Il y en avait d'autres aussi, Nedved qui était pas mal. Mais Scholes, vraiment, c'était des menaces de 25, 30, 35 mètres. La distance, c'est pas un facteur pour lui. C'est, s'il peut allumer, il allume. Et les buts qu'il a mis comme ça, c'était des reprises de volée, c'est incroyable. Et comme j'ai mis Gerrard d'ailleurs, donc du coup j'ai mis Paul Scholes ici, c'était parfait. Et donc on va enchaîner avec le jeu court, parce que milieu de terrain est vraiment un maître du jeu, il doit savoir manier le jeu long et le jeu court. Alors qui tu as mis, Maxime,
Toujours pareil, il y avait Xavi, mais j'en avais besoin ailleurs. Donc, il y a un nom qui m'est venu assez naturellement, c'est Marco Verratti. Voilà.
Ouais.
Tout simplement parce que je pense que c'est le... Je ne suis pas un grand fan du jeu court pour le jeu court, c'est-à-dire des redoublements de passes, mais c'est le type qui, pour moi, résume bien ça. C'est-à-dire, jeu court, petits espaces, ça peut dribbler. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment... Quand je pense jeu court et redoublement de passes, je pense naturellement à lui.
Ouais, bah, Verratti, c'est pas mal. Damien, t'as choisi qui ?
Vu que j'ai pas choisi Xavi avant, j'ai pris Xavi là parce que l'orientation du jeu de Xavi, c'est finalement contrairement à Verratti, en fait Xavi, tu as très peu d'images de lui qui joue long, qui fait des passes de 20, 25, 30 mètres. Mais c'est comme Busquets d'ailleurs, parce que Busquets aurait pu très bien être là également. C'est-à-dire vraiment c'est le mec qui oriente. D'accord. c'est les mecs qui orientent le jeu en fait. Et le jeu court pour moi c'est plutôt ça en fait. Ils orientent vraiment le jeu. L'action va plutôt se passer à gauche, à droite. Voilà, et c'est le jeu court de Xavi, c'est un modèle du genre.
Je vais enchaîner du coup. Tu as cité Busquets, que j'ai mis. Busquets, pour les mêmes raisons que tu as cité pour Xavi, exactement. C'est pas les longues relances de 30 mètres pour chercher l'ailier et tout. Non, c'est vraiment jeu court direct. Après, c'est l'école barcelonaise qui veut ça. Donc, je vais pas plus développer. Tu as très bien dit. Je vais donner la parole à David.
Et du coup, moi, je vais citer le troisième joueur espagnol du Barça, Iniesta, qui. C'est, en fait, c'est logique qu'on cite les trois, puisqu'ils font du jeu court aussi ensemble, évidemment, avec Messi au Barça. Et du coup, quand tu vois certaines combinaisons, des allers-retours de balles, des 1-2-3 entre Iniesta, Messi, avec Xavi qui se met au milieu, etc. Enfin, c'est très impressionnant. Et donc, voilà, moi, pour l'équilibre de mes catégories, c'est Iniesta qui se retrouve dans celle-ci.
En plus, il a fallu attendre la 13e catégorie pour avoir cité Iniesta. C'est quand même assez incroyable.
Ah oui, je suis le premier à le citer.
Ouais. Moi, je ne l'ai pas mis pour une simple raison. Pareil. C'est que moi, je passe plutôt dans la catégorie milieu offensif.
Je passe plutôt dans
les 8 plus d'accord. 10. C'est plutôt pour ça. Mais après, honnêtement, il y a débat. Parce que c'est vrai que le Barça, en fait, c'est quoi le poste de 8 au Barça?
Ton excuse tient bien, Damien. Ton excuse tient bien. Vous êtes excusé avec Maxime. C'est parfait. Et donc, qui dit jeu court dit jeu long. Donc, on va enchaîner. On reste avec toi, David, sur le jeu long.
Pour le jeu long, j'ai choisi Pirlo. Après, je sais pas si ça se discute un peu aussi pareil sur son poste, mais je trouve qu'il est plus clairement, en tout cas avec l'équipe d'Italie, en relayeur ou enfin dans des compositions. C'est un style de jeu de toute façon qui est justement qui correspond pas au jeu du Barça ou au jeu anglais qu'on a beaucoup cité sur les milieux, et finalement on a cité assez peu d'Italiens sur les milieux, ce qui est sûrement notable. Sur le jeu long, on avait parfois l'impression qu'il avait une main pour envoyer le ballon, quoi. C'est tellement de précision. C'est très impressionnant. Et pareil, je pense qu'il doit y avoir pas mal de compiles sur YouTube où on peut voir un peu ce qu'il faisait.
Ouais, pas mal. Quelqu'un a mis Pirlo aussi dans le jeu long?
Ouais, j'ai mis Pirlo. J'ai beaucoup hésité avec Xabi Alonso. Que malheureusement ne me frappait pas, je n'ai même pas pu placer finalement à la fin dans toutes les catégories. Alors que pourtant c'est le symbole du Regista. Je trouve en fait qu'il est tellement bon partout en fait que j'ai eu du mal en fait à le placer. À partir du moment où j'ai mis coupe de cheveux Kanté, du coup j'avais les catégories un peu plus pour tout. Du coup je les avais Pirlo en fait, si tu veux, c'était vraiment j'ai des images dans la tête de Pirlo qui commence à armer quelque chose à 30 mètres de ses cages. Et ça termine vraiment à 30 mètres des cages adverses dans les pieds avec un mec qui n'a pas besoin de faire un contrôle compliqué. C'est une image. Puis en plus, il a une prestance quand il faisait son jeu long. T'avais l'impression vraiment que c'était une petite passe à 5 mètres. Le mec te balançait une passe à 60 mètres avec une courbe, fantastique.
Espèce de quarterback un peu du football, c'est ça. Ouais. Maxime, t'as choisi qui pour le jeu long?
Moi, j'ai choisi Paul Scholes. Alors, je l'ai pas mis dans la puissance de frappe. Tout simplement, le Paul Scholes qui jouait avec Roy Keane, c'est-à-dire le milieu de terrain à peu près parfait du bon et du truand, on va dire. Et Paul Scholes qui faisait le boulot aussi de ratissage, mais qui envoyait on a parlé des ogives tout à l'heure. Des longs ballons plutôt précis aussi. Paul Scholes, pour moi, c'est marrant, parce que d'ailleurs, quand les gens lui rendent hommage, tout le monde dit Paul Scholes, Paul Scholes, Paul Scholes, c'était un grand, même Zidane dit que c'était un des meilleurs milieux de terrain. Je pense que Paul Scholes aurait eu la tête de Beckham, on aurait dit que c'est le meilleur joueur du monde sans hésiter. Voilà, tout simplement.
Tu penses vraiment?
Ah, je pense, ouais.
C'est un déni de sale gueule?
Non, mais il est discret. Ah, c'est
sûr. On y revient.
Ouais, vu ma peau, tu vois, c'est pas là. Pour le coup, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est. Non, je pense qu'il est. Il y a cette discrétion naturelle. Je pense que si tu lui mets l'UGREF à tête de Beckham, tu te poses pas la question de dire si c'est. Parce que c'est vraiment un immense joueur. Alors, il a eu un tort, c'est d'arrêter sa carrière internationale un peu tôt. Pour le reste, c'est.
Et d'être anglais et du coup, de pas avoir de palmarès international.
Exactement. C'est ça, quoi. Bah, j'ai pris un anglais aussi, c'est Steven Gerrard. Je le place enfin. Je crois que tout le monde l'a déjà placé une fois, toi deux.
Non, mais ouais. Hein? C'est Van Bommel de
fois. Ah, excuse-moi.
C'était trop propre, Gerrard.
Et Steven Gerrard, donc, pour le jeu long. Moi, je me rappelle de transversal qu'il faisait, qui était incroyable. Et ça arrivait dans les pieds. Je me rappelle même avec les commentaires de Jean-Michel Larquet en Ligue des Champions qui accompagnait ça. Incroyable, ça arrive dans les pieds. Enfin, bref, c'était génial. Mais Steven Gerrard, c'est un peu impression. Je crois que c'est celui qu'on a le plus cité depuis le début de l'épisode. Voilà, il est rentré là pour moi. J'aurais pu le mettre ailleurs, mais pour moi, je l'ai mis là parce que j'avais besoin d'autres noms. Et on enchaîne avec une catégorie. Je pense qu'on a un peu tous galéré là-dessus. C'est le jeu de tête. Alors, Maxime, qui t'as choisi pour le jeu de tête pour ton milieu de terrain idéal?
Alors moi, j'ai pas trouvé. Au début, j'avais envie de placer Corentin Tolisso quelque part. J'ai pas réussi, donc j'ai choisi Claude Makélélé. Alors je m'explique.
Explique-toi, c'est ta scandale.
Non mais je suis sûr que je vais vous convaincre. Moi, j'ai un souvenir incroyable.
Tu vas avoir du mal.
J'ai un souvenir incroyable de Claude Makélélé. C'est contre le Dortmund en 2003 en Ligue des Champions avec le Real.
Juste, tu peux rappeler quelle taille fait Claude Makélélé?
1,68 par là à peu près. Le Real joue Dortmund. Et en face, à Dortmund, il y a Yann Köller, qui fait plus de 2 mètres. Là, le Real dit, prend parti de faire une chose très simple. Il dit, de toute façon, on ne va pas lui prendre les ballons de la tête. Qu'est-ce qu'on fait ? À chaque fois qu'il y a un long ballon, c'est Makelele qui a l'air tombé. Donc, ils mettent Makelele sur Yann Köller. Il y a à peu près 50 kilos de différence, 30 cm aussi. Donc, il ne prend aucun ballon. Et l'autre les prend à chaque fois. Mais la tactique, c'était simple. C'était de se concentrer sur le rebond et d'être bien placé à chaque fois. Le Real n'a pas perdu un des deux matchs, d'ailleurs, il me semble. Et ça énervait les Allemands qui trouvaient que c'était un manque de respect. Donc voilà, c'était un peu ma pirouette. Et c'est un truc avéré. Et on retrouve, vous pouvez retrouver les articles où il explique cette tactique-là. Et ce qui est drôle, c'est que d'avoir tenté ça. Et surtout, comme tu l'as dit, on a galéré. Moi, j'ai galéré, honnêtement, j'en voyais pas un. Donc je me suis dit, je vais prendre le contre-pied absolu. Et Claude Makélélé, ça me paraissait pas mal.
Pas mal, pas mal. Pas mal d'argumentation. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Oui, il m'a un peu convaincu. Voilà.
Je n'ai jamais vu faire une tête d'ailleurs. J'ai aucun souvenir de quelqu'un.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Bon, Damien, t'as réussi à trouver un joueur?
Ouais, j'ai pris Franck Rijkaard. Bon, alors, c'est pas très. Alors, du coup, j'étais là, je galérais aussi. Puis après, je me suis dit, bon, je vais penser aux mieux défensifs, aux mieux relayeurs qui sont grands. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, j'ai pensé à Rijkaard. Et en fait, il y a un match que j'ai revu, qui a été rediffusé il n'y a pas longtemps. C'est à l'Euro 92 contre l'Allemagne. Et c'est très tôt dans le match, c'est quasiment la première occasion des Pays-Bas, en fait, où il se retrouve à faire une espèce de tête croisée, un peu comme celle qu'avait fait Cavani, je crois, début de cette année, c'est-à-dire une tête vraiment où il change complètement la trajectoire de la balle, c'est assez spécial. Et après, du coup, bah, je me suis mis à regarder plein de vidéos et tout, et en fait, j'avais ce souvenir aussi qui m'est revenu, mais pareil, j'avais vu en différé, c'était un Milan-Real, où il se retrouve à faire une tête, et à catapulter une tête lors du 5-0 en 89. En demi-finale, et il se retrouve à catapulter une tête. Et en fait, tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là? Parce que là, à la rigueur, sur la première action, c'est du coup de pied arrêté, mais là, c'est du jeu, c'est une action. Et voilà. Et donc, du coup, voilà, un 90, voilà. Bon,
pas mal. David, t'as réussi à trouver un joueur bon de la tête?
Moi, comme tout le monde, j'ai galéré, en fait, pour des raisons simples. C'est qu'en fait, c'est pas une qualité essentielle du tout au milieu de terrain d'être bon de la tête. C'est à la limite, plus soit pour les attaquants, soit pour les défenseurs, pour aller disputer les ballons dans la surface, parce que jouer de la tête au milieu de terrain, c'est vraiment pas du tout essentiel. Et du coup, dans le doute, quand je sais pas, je me dis, je vais me retrancher vers des Lyonnais. et en même temps, donc, j'ai choisi... en fait, j'inaugure un peu le trio de milieux magiques qui m'a fait rêver à l'époque, et donc en citant Gila Diarra, qui était le plus grand de taille, et donc je suis pas du tout sûr qu'il était vraiment si bon de la tête. Et dans mon souvenir, c'était pas essentiellement par ça qu'il brillait, mais au moins ça me permettait de le caser. Et puis voilà, c'est le premier, il y aura les deux autres.
Ouais, très bien, on attend. Et moi, j'ai pris un ancien Parisien et Marseillais. Et je l'ai pris parce que c'est ce but contre le PSG avec l'OM, c'est Loric Sana. Donc c'était avant qu'il redescende en défense centrale.
Tu m'avais dit avant que tu faisais ça, tu n'aimes pas mieux.
C'est même pas un troll. Non, mais j'ai beaucoup galéré aussi. J'étais là, mais qui je vais prendre? Et je cherchais, comme toi, je me suis réfugié dans mon club de cœur qui est l'OM. Et j'ai cherché et je suis retombé sur ce match. Donc cet OM-PSG, ce classico, et avec cette tête de Sana, en plus on gagne contre le PSG, ça faisait je crois très longtemps qu'on n'y a pas gagné contre eux. Et voilà, donc pour moi c'était l'évidence, vu que c'était un peu galère de trouver, de mettre le Rick Sana pour le jeu de tête. Et on va enchaîner, je pense, avec une catégorie où vous avez eu quand même plus de facilité, celle du dribble. Damien, on va commencer avec toi. Quel est ton dribbleur milieu de terrain?
Eh bien, écoute, j'ai teasé tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que c'est le joueur, c'est Marco Verratti. Parce que j'ai cherché tout de suite, quelle catégorie j'allais me placer Verratti, et après on verrait pour le reste. notamment, parce que ma femme va me buter si je le dis, mais mon gosse, il s'appelle Marco pour Verratti. Donc, j'ai poussé la fanitude. Voilà, donc il y a Niskens, Kebano, il y a tout ça. Voilà, donc il y a le roi San et tout. Moi, mon gosse s'appelle Marco, alors que je suis d'origine russe. Et du coup, voilà, pour moi c'était Marco Verratti, mais au-delà même du fait qu'il fallait que je le place quelque part, ah, c'est bon quoi, les mecs qui dérivent de leur surface de réparation. Et finalement, en fait, les gens qui critiquent en fait finalement le fait que Verratti prend trop de risques, etc. Certes, il a perdu des ballons, mais en fait quel joueur qui a pris des risques dans sa carrière, y compris au Barça, etc., n'ont pas perdu de ballons dans des zones dangereuses, c'est toujours arrivé. Mais finalement, si je devais demander à quelqu'un de me ressortir 3-4 buts en fait importants qui ont été causés par une perte de ballon de Verratti qui a dribblé, par contre je peux te sortir contre le Real, contre le Barça, des sorties de balles où il fait des dribbles dans la surface de réparation, où t'as deux joueurs qui partent dans le vent, notamment une fois il y a Iniesta, enfin Busquets, enfin qui monte très haut. Voilà, donc pour moi c'est Marco Verratti, c'est
pareil, j'ai pas hésité sur cette catégorie, c'était Verratti. il fait des, bah, comme tu as dit, il fait des dribbles incroyables, même dans son propre camp.
Ah ouais.
Et moi, je trouvais ça vachement cool. C'est vrai que c'est très risqué, mais c'est vachement beau. Et
c'est très utile, en fait. Souvent, c'est en fait, c'est pas que. C'est aussi pour Bojan, parce qu'il a déjà expliqué, il avait expliqué dans son interview, dans son foot. Je connais bien le joueur, j'ai un peu fait l'exégèse de Marco Verratti. Mais donc, il parle de l'esthétique du dribble, etc. Mais c'est aussi, en fait, finalement, quand il fait un dribble, parfois ça casse complètement la ligne de pressing adverse. Et encore une fois, contre le Barça, lors du 4-0 ou l'année précédente, c'est des fois son dribble tue complètement le pressing du Barça, qui s'est puis après plus trop où se positionner pour casser le pressing du Barça. Voilà, faut y aller.
Verratti, incroyable, moi je l'ai mis là. Qui t'a mis, David ?
Moi j'ai pris Modric. En fait, c'est un peu comme Paul Scholes, où je pense qu'il est un peu sous-estimé pour un délit de sale gueule, à mon avis. C'est un joueur techniquement qui est extraordinaire, au Real et dans l'ombre de peut-être d'autres joueurs aussi extraordinaires, et en particulier de Ronaldo, mais voilà quoi, enfin je trouve que c'est un joueur hyper hyper intéressant, qui souvent bonifie les ballons qu'il touche, et j'avais envie de le citer dans ma liste, et il se retrouve au niveau du
c'est un très très bon choix. J'approuve. David, Maxime, qui as-tu choisi?
Alors moi j'ai choisi Fernando Redondo.
Très bon choix également.
Je pense qu'au niveau milieu défensif relayeur, techniquement, on n'a pas fait beaucoup mieux dans l'histoire du foot. Et c'est surtout pour un dribble. C'est le dribble qui réussit contre Manchester United en 2000, je crois, en quart de finale. Cette talonnade, il fait une talonnade sur le côté gauche sur Engelberg, qui se transforme en petit pont. Et lui, il fait le tour de lui et il va donner la passe décisive à Raoul. Il faut vraiment aller voir ce dribble-là. Ce dribble-là est complètement dingue parce qu'il le fait à un endroit du terrain où on ne fait jamais ça. Et en gros, il se fait une passe à lui-même en talonnade. C'est le dribble, pour moi, c'est le dribble ultime. Et surtout, ce que j'aime dans ce dribble-là, c'est que je ne l'ai pas revu deux fois. Et il joue sur l'efficacité et la beauté du geste. C'est un dribble complètement dingue. Et c'était un joueur fabuleux qui a raté, il aurait pu faire une meilleure carrière. Il y a eu des blessures. Ouais. Et il a refusé de se couper les cheveux à un moment pour jouer avec Passarella en Argentine. Donc voilà, il était aussi droit dans ses bottes. Mais c'est un joueur vraiment magnifique, et vraiment ce dribble-là en particulier qui m'a marqué à vie.
Et on va rester avec toi, Maxime, sur la prochaine catégorie, qui est la précision. Alors, qui est le joueur le plus précis selon toi, le milieu de terrain le plus précis?
Alors, plus précis, je ne sais pas, mais j'ai eu envie
de... Ça peut être dans le jeu normal ou sur coup
de pied
arrêté.
J'ai envie de parler de Pjanic, justement, parce que Miralem Pjanic, pour moi, il a cette précision dans le jeu, justement, sur les coups de pied arrêtés. Et pareil, il est un peu, pas sous-estimé, mais c'est jamais la tête d'affiche, alors que c'est le type qui fait des passes à 25-30 mètres à terre, qui casse les lignes. Il peut jouer long aussi aérien. Et surtout, les coups de pied arrêtés, notamment les coups francs. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le type qui a marqué le plus en Europe sur les 5 dernières années au moins. Donc je trouve qu'il a, ce côté... Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est aussi, il y a ce côté discret, c'est-à-dire qu'il fait le job très proprement, très finement, sans en rajouter.
David,
Pjanic, enfin, je suis assez d'accord, et je pense qu'il a, dû pas mal progresser dans sa jeunesse auprès d'un autre joueur, celui que j'ai choisi, c'est Juninho.
Enfin, tu l'as passé.
Non, mais au niveau de la pression, en fait, quand t'étais supporter lyonnais à l'époque, il y avait un truc qui se passait au moment où Juninho allait tirer un coup franc. Qui est quelque chose que dans l'histoire du sport, j'ai rarement ressenti des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est pas comme un penalty où en fait un penalty, tu te dis que normalement le joueur a la grande majorité des chances de mettre le but. Donc quand le penalty est transformé, t'es plutôt soulagé. Alors que là, en fait, tu prenais le temps de te préparer à l'exultation. Et ce truc, c'est... je remercie infiniment et à vie ce joueur-là de m'avoir fait vivre ça, parce que c'est extraordinaire, et c'est un sentiment que tu n'as pas très souvent dans le sport, en fait.
Ouais, j'ai pris Juninho aussi, parce que sa précision sur coup franc, sur coup de pied arrêté, c'est juste incroyable. Je ne sais pas, comme tu l'as dit, si depuis on a retrouvé quelqu'un d'aussi efficace. Je n'ai pas les chiffres en tête, les pourcentages, mais moi, je me rappelle d'une époque, dès qu'il y avait coup franc, à 40 mètres, à 30 mètres... plein axe excentré, c'était une vraie menace, ça pouvait rentrer, ouais. C'était incroyable. Et si je pouvais faire une comparaison, tu dis t'as pas vu ça ailleurs, moi je pense que je suis beaucoup l'NBA, je comparais peut-être à Stephen Curry,
ouais, sur les 3 points.
Dès qu'il a 3 points, ouais. Avec un défenseur ou pas, on sait que ça peut rentrer, et souvent ça rentre. Et en termes de précision, c'est un peu le même genre. Donc ouais, Juninho, facile. Damien, qui tu as choisi?
Moi, juste sur la comparaison NBA, je le comparais plutôt à Ray Allen. Parce qu'en fait, Stephen Curry a pour moi une malice et a une... je vois quelqu'un d'assez pas dans le sens négatif du tout, je te dis ça, tu t'énerves pas, mais dans le sens assez froid, tu vois, assez clinique, assez vraiment je comprends totalement quand t'es supporter lyonnais ou supporter de foot sans avoir une équipe, parce que quand t'es parisien ou marseillais ou stéphanois, c'est un peu plus compliqué de l'aimer.
Bah, c'est sûr que quand t'es en face, c'est flippant, quoi.
Exactement, c'est, ouais, c'est ça, donc la peur qui nous a créé, ça empêche un petit peu de l'aimer autant que toi, mais en fait, Stephen Curry, en fait, moi, il a une malice et une manière, voilà, un petit peu, voilà, enfin, une folie que je ne retrouve pas chez Juninho. Par contre, Ray Allen, en fait, c'était vraiment dans le corner, à shooter à 3 points, froid, etc. aussi, avec son petit chewing-gum comme ça, et c'est bon. Et puis, même quand je mets le plus gros shoot du siècle, je lève juste la main en l'air et puis ça s'arrête là. Et moi, plutôt, j'ai choisi Deco. J'ai un peu hésité, comme pour Iniesta. Où je me suis dit, je te sens jugé. Non, mais du coup, est-ce que c'est 8-10 ou pas? Ouais. Et en fait, finalement, j'ai plus de souvenirs de lui pareil en tant que 8, plus qu'en tant que 10. Voilà, donc du coup, et en fait, c'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'affection, donc il fallait que je le place quelque part. Et en fait, j'ai l'image d'un joueur aussi, voilà, qui était très, très propre. Et voilà.
Ouais, j'hésitais aussi avec Lampard, qui a mis beaucoup de buts dans sa carrière avec Chelsea, que ce soit sur coup de pied arrêté, même dans des frappes dans le jeu. Ça a été des frappes très puissantes, pleine lucarne, mais souvent un rater. Pour le coup, en termes de précision, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on est bien. Je pense qu'on est bien. Maxime, quelque chose à rajouter?
Non,
très bien, je croyais.
Tout va bien.
On enchaîne avec la vitesse. Alors, c'est vrai que c'est pas une catégorie qui est propre au milieu de terrain, enfin, en tout cas, ces milieux de terrain-là. Mais il y en a qui quand même qui cavalent. Tiens, Damien, qui tu as choisi?
Bah moi, en fait, c'était hyper rapide du coup, parce qu'il y en a, comme tu dis, il y en a pas beaucoup. Et en fait, c'est Edgar Davids, parce qu'en fait, sur les premiers pas, en fait, il y avait un truc où il surgissait sur toi. Tu te disais mais d'où il sort, en fait. Tu pensais qu'il avait 3-4 mètres de retard. En fait, le mec était déjà sur toi. Et j'ai cette image, en fait, de vivacité qui doit aussi renvoyer au jeu de foot, parce qu'il avait toujours des catégories de vitesse extraordinaires. Donc, tu pouvais partir, à l'époque, les jeux de foot, ça ressemblait pas trop à grand chose. Tu pouvais partir avec du milieu de terrain et faire des trucs un peu rigolos avec. Voilà. Donc, pour moi, ça a été Edgar Davids sans.
Ouais, pas mal. Maxime?
J'ai fait le même choix, et du coup, j'ai pas grand chose à ajouter, et j'avais la même réflexion que sur les stats des jeux de foot, a dû m'influencer aussi, mais c'est vrai, avec une petite précision qui est que je dirais que c'est plus chez lui de l'accélération, effectivement, sur les premiers pas que la vitesse sur une longue course. Il perdait un petit peu du terrain là, par contre. Mais voilà, Davids, je suis complètement d'accord.
Maxime, est-ce que tu as pris Davids aussi?
Non, j'ai pas pris Davids. En fait, j'ai eu du mal aussi à trouver. Et puis, je me suis souvenu d'un souvenir récent, Stade de France, France-Colombie. Je vois N'Golo Kanté à un moment qui démarre. Et qui fait du pressing sur 4-5 joueurs sans s'arrêter. Et il y a ce côté dingue chez N'Golo Kanté, c'est que ce n'est pas une vitesse de pointe, mais c'est la vitesse du demi-fondeur. C'est-à-dire que c'est le type, le terme anglais, c'est pace. En fait, c'est vraiment le rythme où il est capable de courir pendant 30 secondes à une vitesse plus importante qu'un demi-fondeur et sans s'essouffler. Et je pense que sur le terrain, avoir un type comme ça qui jaillit aussi vite, qui est tout le temps dans vos pattes, ça doit être infernal. En plus, il est tout petit, donc ça doit être, c'est pas possible, on peut pas s'en débarrasser. Et encore une fois, je garde cette image. Ce soir-là, les Bleus n'ont pas beaucoup couru, mais alors lui, il a couru pour tout le monde. Et je trouve ça complètement dingue de le voir tourner.
Du coup, comme tu as choisi Makelele en termes de jeu de tête, tu pouvais pas le rechoisir en vitesse. dire, j'ai le souvenir qu'on l'avait mis face au joueur le plus rapide de l'équipe.
Cela dit, Makelele, qui jouait à Nantes au début, qui était sur côté droit offensif, il allait vite. Hein.
C'est vrai.
Et c'est marrant d'ailleurs comment il s'est transformé ce joueur-là.
Ouais. Mais ce que tu dis sur N'Golo Kanté, ça me fait penser. C'est un contact que j'ai au sein de l'équipe de France, qui est dans le staff médical, et qui me disait, quand il a vu arriver N'Golo Kanté, première fois qu'il le voyait, donc ils font les tours de terrain comme ça, et il me dit, mais alors c'est un mec qui a déjà joué au foot et tout, qui a joué au foot pendant longtemps, il me dit, je savais pas qu'à ce niveau-là, il y avait encore des mecs qui mettaient des tours de terrain aux autres. Il disait, il avait un tour de terrain sur tout le groupe France, et le mec n'était pas essoufflé, quoi. Il était normal. C'est des trucs qu'il me disait que je voyais quand j'étais au collège, qu'on faisait de la VMA, les 3x500, mais là... C'est au niveau professionnel avec N'Golo Kanté. Ouais.
J'aimerais savoir quel temps il fait sur 800 mètres, sur 1500, sur du demi-fond, parce que, encore une fois, c'est hyper impressionnant de le voir courir comme ça au pressing et de ne pas s'essouffler.
Mmh. Mais moi, j'ai pris un autre néerlandais, c'est Clarence Seedorf, pour les mêmes raisons que David. C'est pas la vitesse pure, mais pareil, moi, j'ai des images, même quand il était au Milan, sur des premiers pas, les premiers appuis, c'était très rapide. Et bah voilà, tu as fait le geste, Maxime, c'est vraiment beaucoup de fréquence. Moi qui ai fait de l'athlé, c'est vraiment un truc qui me parle. Voilà, c'est beaucoup de fréquence, moins d'amplitude, mais ça est très, très vite sur les premiers pas. Donc, peut-être que c'est, je ne leur rends pas la vitesse pure de mecs comme Walcott ou Bellerin, mais en tout cas, sur les premiers pas, ils sont vraiment très, très bons, ceux qu'on vient de citer. Donc, c'est pas mal du tout. Et on va enchaîner avec la prochaine catégorie qui est la puissance. On va aller avec toi, David.
Du coup, pour la puissance,
parce que je sens qui tu
je termine la trifecta avec Michael Essien, qui en fait, enfin, au-delà de ses matchs avec Lyon, c'est un des fois où il m'a le plus impressionné, c'est à la Coupe du Monde 2006, où vraiment il porte son équipe
avec
le Ghana, il est extraordinaire, il a vraiment une puissance, c'est un joueur qui presque porte le bloc équipe en fait quand il a le ballon ou même quand il l'a pas, enfin il y avait un truc qui était hyper impressionnant, qui allait en s'améliorant quand il allait à Chelsea après, même s'il a eu un peu des difficultés par moment, et donc voilà, ça me permettait de boucler ce milieu à trois,
ce fameux milieu à trois de Lyon des années 2000,
qui n'a pas duré si longtemps en fait, ces trois là ensemble, mais qui à ce moment là était vraiment, à mon avis, en Europe très 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 haut, quoi.
Ouais, j'ai pris Essien aussi, comme tu as dit, pour moi c'était vraiment un monstre physique, et pareil, pour rebondir sur les parallèles avec les jeux vidéo, moi je me rappelle dans PES, le mec, je le mettais, on pouvait pas lui prendre la balle, impossible, il était trop physique pour lui prendre la balle, et surtout à Chelsea, les matchs qu'il a fait physiquement, c'était incroyable, en plus il a mis des beaux buts, des boulets de canon, enfin moi j'adorais ce joueur, il pouvait tout faire, jouer à tous les postes du milieu de terrain, même en défense, génial, incroyable. Maxime, qui tu as choisi pour la puissance ?
Alors moi, j'ai choisi Marcel Desailly.
Moi, je l'ai mis dans mon Franken défenseur. Ouais. Et tu l'as mis pour le Franken milieu, parce qu'il a joué milieu défensif.
Parce qu'en fait, voilà, quand il quitte l'OM en courte saison en 93-94, il se retrouve à l'AC Milan. Et là, derrière, il y a Baresi, Costa Curta. Donc, en gros, il n'y a pas beaucoup de place. Et en plus, il y a Maldini sur un côté. Donc, voilà, si jamais il y a besoin, Maldini peut servir. Et Capello décide de le mettre au milieu de terrain. Et là, c'est complètement dingue, parce que le type est... au-dessus de tout, Milan, c'est la meilleure équipe d'Europe. Il est dingue. Son but contre le Barça en finale résume bien ça. C'est qu'il y va à fond. C'est un cadre absolu et une puissance de jeu qui s'est retrouvé, qu'il avait déjà en défense, mais qu'il a exprimé au milieu de terrain. Et il a joué un peu comme ça en équipe de France au milieu de terrain, mais on sentait que Jacquet avait plus envie de l'avoir avec Blanc, ce qui n'était pas une erreur à l'arrivée. Et donc voilà, c'est de Saïs, ça a presque pas duré assez longtemps de le voir au milieu de terrain, mais c'était quand même... Un monstre physique, c'était un peu, on parlait des siens, il y a un peu ce côté-là. Alors, techniquement, de Saïs, ça n'a jamais été un tueur, mais il avait cette puissance qui était complètement ravageuse.
Ouais. Damien, ton joueur puissant ?
Bah, de toute façon, c'est Patrick Vieira, comme je l'avais dit tout à l'heure. Pour moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué, un des joueurs auxquels je vais pas redire identifié, mais bref, vous comprenez. Mais voilà, ça a été un de mes premiers joueurs préférés avec Ronaldo et Shevchenko. Ça a été la triplette un petit peu de mes rêves. Et voilà, Patrick Vieira.
Ça sent la jaquette FIFA, ça aussi. Hein. On n'est pas loin. Hein. Je crois que Shevchenko et Vieira, je crois, les deux ensemble, ils ont déjà fait.
C'est possible. Shevchenko, c'est mon tropisme russe, là, qui est du côté. Bref, bon, je ne suis pas dans un débat géopolitique. Mais du coup, c'est Patrick Vieira, encore une fois, pareil, c'est ces images-là de mec qui prend la balle et qui va filer tout droit. Tu sens que c'est pas trop si quelqu'un peut lui prendre la balle, en tout coup, sans faire faute. Et voilà. Donc, je dis tout le bien.
Mais je trouvais qu'il dégageait pas justement cette impression de puissance, alors qu'il l'était.
Ouais.
Parce que je pense que c'est par rapport à sa taille.
On disait que c'était l'araignée, donc, mais quand même, il était quand même.
Ah ouais, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà foutu par terre sans faire faute. Enfin, vraiment, le coup d'épaule sur Vieira, fallait avoir fait.
Faut y aller.
Ouais, fallait être passé à la salle de sport avant, je pense.
On va rester avec toi, Damien, pour la prochaine catégorie qui est la clutchitude. Donc, comme tu es fan de NBA, tu peux nous expliquer ce qu'est être clutch, ce que ça signifie avant de.
Le joueur clutch, c'est celui qui va être décisif qui va être là dans les moments décisifs, que ce soit en fin de match, dans les prolongations ou alors aussi dans les matchs les plus importants. Du coup, en fait, j'ai pensé avant tout à une équipe. J'ai pensé à Manchester United parce que pour moi, j'ai cette image-là, voilà, d'équipe. Il y avait aussi Liverpool. C'était les deux qui pouvaient, voilà. Mais j'ai pensé à Manchester United. Et du coup, voilà, il fallait que Paul Scholes, parce que moi aussi, j'étais un très, très grand fan de ce joueur-là, et il fallait que je le place quelque part. Et en fait, moi, j'ai cette image-là, pareil, de mec qui... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Simeone, mais dans un autre genre, en fait. C'est-à-dire que le mec, il va jamais rien lâcher. Tu sais que jusqu'à la fin du match, s'il va être là, qu'il va pas avoir peur, qu'il a toujours son chewing-gum à la con, là, dans la bouche, là, qu'il va, voilà, et qu'il va être là dans les moments à faire les bons tacles, à faire les bonnes passes, à prendre les bonnes décisions, en fait, et à garder vraiment son sang-froid pour faire les bonnes choses.
Donc, pas forcément en marquant des buts, mais plus sa gestion du
exactement,
match.
Exactement.
Très bien, très bien. Maxime, ton joueur clutch?
Alors moi, je suis arrivé à la fin de mon questionnaire. Je me disais que j'avais toujours pas d'allemand dans mon questionnaire. Et moi, s'il n'y a pas d'allemand, c'est pas possible. Alors au début, je me suis dit Lothar Matthäus. Je me suis dit, on va me dire les numéros 10. Je vais dire, bon, c'était entre les deux. Mais donc, j'ai pris un joueur que j'ai adoré, qu'aujourd'hui, il a un peu oublié. C'est Michel Ballack.
J'ai beaucoup aimé aussi. Mais...
Qui est en 2002, le clutch par excellence. Alors, vous allez me dire... À l'arrivée, il gagne aucune des finales qu'il joue. Je crois qu'il y a 4 finales. Bundesliga. Mais je trouve que ce joueur-là, je trouvais que c'était à ce moment-là l'espèce de footballeur parfait. Il joue entre relayeur et défensif. En championnat, il met 17 buts. Et une image un peu romantique, ce qui ne va pas normalement avec les Allemands, c'est cette demi-finale contre la Corée du Sud en Coupe du Monde. Il prend le jaune. Il sait qu'il ne jouera pas la finale. Il va marquer le but. Il qualifie son équipe. Mmh. Voilà. Donc pour moi, c'était... le côté clutch, et voilà, le paradoxe, c'est qu'il ne gagne rien sur cette période-là. Il va gagner avec Chelsea. Mais il y avait ce côté aussi un peu létal aussi à ce moment-là.
Je te remercie d'avoir mis Ballack, parce que moi, je n'ai pas réussi à le mettre dans aucune des catégories. Mais c'est un joueur que j'ai adoré vraiment.
Ah ouais, pareil.
Je le trouvais tellement élégant, tellement beau, balle au pied. Et c'est vraiment qu'il lui a manqué vraiment ce palmarès, en fait. C'est, comme on dit, il a un peu choqué sur... Enfin, ce n'est pas vraiment que lui, mais ouais, il y a eu beaucoup de chocs en finale. Donc,
Après, il n'est jamais dans tu regardes les finales, il n'est jamais dans la meilleure équipe. Donc c'est aussi ça, l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde 2002, c'est un peu un miracle. Leverkusen en finale de la Ligue des Champions, c'est très bien, mais il y a le Real en face, voilà. Et ce qui est aussi dingue avec Ballack, c'est que c'est presque son sacrifice qui fait renaître l'Allemagne telle qu'on le sait aujourd'hui, qu'on la connaît, pardon. En 2010, il est blessé, résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de jeu, parce qu'ils ralentissent et tout, et puis résultat, on a l'Allemagne qu'on a aujourd'hui.
Parfait. Ton joueur clutch, David?
Moi, mon joueur clutch, c'est un peu un pari pour l'avenir en espérant pas lui porter malheur. C'est Tolisso, en fait, où j'espère en particulier prochaine échéance pour la Coupe du Monde, enfin, sachant qu'entre-temps, il y a encore la Ligue des Champions où il peut sortir sa carte du jeu. C'est un joueur que je trouve hyper intéressant sur cet aspect-là. Il a eu dans sa carrière, en fait, un match assez décisif. C'est un derby en 2014, je crois, que Lyon perd 3-1 ou quelque chose comme ça, et dans lequel il est impliqué. Enfin, il est en cause sur quasiment tous les buts. Et il vit hyper mal le truc. Et en fait, à ce moment-là, il y avait eu des articles qui disaient, en fait, soit ce jeune, il va jamais s'en relever, soit il va se forger un mental de dingue et il va devenir hyper décisif. Et c'est plutôt allé dans l'autre sens. Je pense qu'il progresse énormément. Et en fait, j'aimerais bien qu'il revienne en pleine forme pour la fin de saison et la Coupe du Monde. Je pense qu'il a vraiment un rôle à jouer dans le milieu de l'équipe de France. Et je le vois bien faire un petit truc un peu décisif qui pourrait faire plaisir en Russie.
Bah écoute, comme Götze il y a 4 ans.
Ouais, pourquoi pas.
Ouais, pourquoi pas. Bah, j'espère que ça va arriver vraiment. Et moi, pour la clutchitude, j'ai pris Iniesta. Alors, je sais, question de la table,
je ne juge pas.
Question de poste, j'entends. Mais bon, pour moi, il reste dans cette catégorie, enfin, dans ce genre de milieu-là.
Il y a l'épisode A Fucking Disgrace.
Exactement, avec Drogba.
C'est ça que je veux dire sur Ballack.
Justement, cette demi-finale de Ligue des Champions en 2009.
Fabuleuse.
Où Sien marque, je crois que c'est Sien qui marque le but.
Ouais, le
donc, Chelsea, je crois, est qualifié à ce moment-là. Et Barcelone n'y arrive pas. Je me rappelle Daniel Alves qui galère, qui perd ses nerfs et tout, qui prend un carton jaune. Je me dis, bon, Chelsea va le faire. Deuxième année en back-to-back, arrivant en finale. Et là, Iniesta arrive, il sort une frappe, le but, incroyable. Et un an après, il remet ça en finale de Coupe du Monde. Donc, rien que pour ces deux actions-là, ça te pose le niveau de clutch du type. Je ne sais pas si après, il en a remis d'autres à des niveaux importants de compétition. Mais juste ces deux actions-là, voilà, pour moi, c'est ultime. Donc, il rentrait là légitimement, tout simplement. Voilà, bah parfait, je vois que vous hochez tous la tête, donc vous êtes tous d'accord. Et on va enchaîner directement avec la dernière catégorie qui est le palmarès. Et on va commencer avec toi, Maxime.
Voilà, bah je vais mettre Xavi ici. Parce que j'ai eu... Non, mais voilà, le problème, c'est que je réfléchissais à Didier Deschamps. Voilà, non. Le problème, c'est que là, je pense que c'est à peu près le plus gros palmarès. Le type a gagné une Coupe du Monde, il a gagné 2 euros. le tout à la suite en plus, tant qu'à faire. Normalement, on gagne, quand on est heureux, on gagne au moins on gagne une Coupe du Monde et un Euro. Lui, on a gagné trois compètes comme ça, donc voilà. Quatre Ligues des Champions, alors des championnats d'Espagne, de quelque chose autour de 8. Donc voilà, il a à peu près gagné tout ce qu'il fallait gagner et plusieurs fois. Donc le palmarès, c'est complètement, complètement dingue. Je n'ai pas trouvé mieux.
Ouais, ouais. Damien ?
Bah écoute, c'est le copain de Xavi. Enfin, je ne sais pas si c'est son copain dans la vie, mais en tout cas, c'est son ancien coéquipier, c'est Busquets. Parce que j'avais mis Xavi ailleurs et Xavi a gagné, je crois, enfin, quelques titres en plus, puisqu'il arrivait plutôt que Busquets, évidemment. Mais voilà, Busquets, bah, c'est l'image du Barça. Pas forcément une équipe que je porte dans mon cœur, mais bon, quand tu penses le Barça de Busquets, de Xavi, de Iniesta, etc., c'est une équipe qui gagne, quoi. Et voilà, et Busquets, il est toujours là. Et par ailleurs, en plus, il a participé à ce palmarès-là parce que c'est lui, voilà, qui donnait le tempo bas de l'équipe, en fait. On sait qui le donne, mais le tempo bas de l'équipe, c'est lui qui le donnait. Il a grandement participé avec la Roja aussi. Il a grandement participé, voilà, à son palmarès. Ouais, là, voilà.
C'est vrai que même pour le Frankenpleur défenseur, on avait pris, je crois, un Barcelonais.
Piqué.
Parce qu'en fait, on est obligé de prendre un Barcelonais, ouais, en espagnol parce qu'ils ont forcément tout gagné. Mmh. Donc, on va voir si David suit la logique.
Bah ouais, moi, j'avais aussi pris Busquets, qui était moi le Barcelonais qui me restait à placer. J'ai hésité avec Lothar Matthäus aussi, qui a un très beau palmarès, mais qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et aussi avec Didier Deschamps. Mais effectivement, Busquets, même si du coup il a un palmarès un peu moindre que Xavi, parce qu'il a gagné un seul des deux euros, il y en a un où il n'était pas. Et voilà, mais bon, c'est. Et aussi l'autre limite par rapport aux exemples de Deschamps et Matthäus, c'est qu'il est resté que au Barça, donc il n'a pas été gagné des championnats ailleurs. Mais c'est quand même un palmarès extraordinaire. Mmh. Donc, je suis d'accord, il a sa place.
Bah, comme j'avais pris la triplette dans les autres catégories, je ne pouvais pas les réutiliser. Donc, j'ai quand même pris un Espagnol que tu as cité, Maxime, c'est Xabi Alonso. Parce qu'il a gagné partout où il est passé, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Il gagne, je crois, deux Ligues des Champions, une avec Liverpool, une avec le Real. Et bon, des championnats, sauf à Liverpool, malheureusement. Mais il a un palmarès long comme le bras, avec la sélection aussi, Coupe du Monde, Euro. Donc voilà, je ne pouvais pas prendre d'autres Barcelonais parce qu'il n'y a pas d'autre milieu Barcelonais qui a participé à la domination espagnole et du Barça à ce moment-là. Mais voilà, Xabi Alonso, c'était pour moi une évidence. De toute façon, il fallait un Espagnol. Et j'hésitais aussi à un moment avec Deschamps, ça aurait pu rentrer avec un mec comme ça qui a gagné l'Euro, la Coupe du Monde. Mais voilà, Xabi Alonso, c'est normal, donc tranquille. Donc, on est arrivé à la fin de ce Frankenplayer, mais avant de finir, on va chacun récapituler son joueur idéal. On commence avec toi, David.
Moi, donc, il s'appelle N'Golito Cantegas. Hein. Il a le visage de David Beckham, les cheveux de Paul Scholes, le numéro 8. Il porte son maillot un peu comme Patrick Vieira, avec de la pommade sur le torse. Il a l'élégance sur un terrain de Paul Pogba, la célébration de Charo de Matuidi, le QI foot de Xavi, le vice de Roy Keane, le mental de Gerrard, l'agressivité de Gattuso, la puissance de frappe de Franck Sauzet, le jeu court d'Iniesta, le jeu long de Pirlo, le jeu de tête de Gila Diarra, le dribble de Modric, la précision de Juninho, la vitesse de Davids, la puissance des siens, la clutchitude future de Tolisso, futur et passé, parce que quand même sur les deux dernières saisons, c'est assez impressionnant, et puis le palmarès de Sergio Busquets.
Pas mal, pas mal. Damien, ton Frankenplayer ?
Il s'appelle Claude Makélélé, il a le visage de Gattuso, il a la non-coupe de cheveux de Kanté, il a le numéro 6, il portait un maillot qui n'était pas forcément très joli, mais il le portait très bien, c'était Lucho González, il avait l'élégance de Vérone, il avait la célébration de Matuidi, le QI foot de Beckenbauer, le vice de Van Bommel, le mental de Simeone, l'agressivité de Roy Keane, la puissance de frappe de Gerrard, le jeu court de Xavi, le jeu long de Pirlo, le jeu de tête de Richcard, le dribble de Marco Verratti, évidemment, la précision de Deco, la vitesse de Davids, la puissance de Vieira, il est clutch comme Paul Scholes et il a le palmarès de Sergio Busquets.
Parfait, on enchaîne avec toi, Maxime.
Alors moi, il s'appelle Steven Gerrard, il a le visage de Dennis Wise, la coupe de cheveux de Beckham, ce qui donne un mix particulier. Le numéro 8, la manière de porter le maillot, c'est Niskens. L'élégance sur le terrain, c'est Xabi Alonso. Il célèbre ses buts comme Marc Van Bommel face au Real. Il a le QI football de Sergio Busquets. Le vice dans encore Marc Van Bommel, le mental de Didier Deschamps, l'agressivité de Roy Keane, la puissance de frappe de Franck Sauzet, le jeu court de Verratti, le jeu long de Paul Scholes, le jeu de tête inexistant de Claude Makélélé, le dribble de Fernando Redondo, la précision de Pjanic, la vitesse de N'Golo Kanté, la puissance de Marcel Desailly, la clutchitude de Michel Ballack et enfin le palmarès de Xavi Alonso.
Que des très beaux joueurs, et on va finir avec le mien. Alors, il s'appelle Zé Roberto, il a le même visage que Luis Gustavo et la coupe de cheveux d'Edgar Davids. Il porte le numéro 8, il porte son maillot comme Vira avec la tache sur le torse, tache de pommade. Il est aussi élégant sur le terrain que Lucho González et célèbre ses buts comme Matuidi et le Charo. Il a l'intelligence de jeu de Xavi Hernandez, le vice de Van Bommel et le mental de Deschamps. Il est aussi agressif que Vinnie Jones, époque Wimbledon. Il a la puissance de frappe de Paul Scholes, il joue court comme Busquets, long comme Steven Gerrard, un jeu de tête décisif comme Loric Sana avec l'OM contre le PSG, il dribble comme Marco Verratti, il est aussi précis que Juninho, court aussi vite sur les premiers pas que Clarence Seedorf, puissant comme Michael Essien, clutch comme Andrés Iniesta, et il a le palmarès de Xabi Alonso. Et juste avant de finir, messieurs, si vous deviez choisir un milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football, ce serait lequel?
Bon, de toute façon, je vais commencer parce que je vais être totalement subjectif. C'est Marco Verratti, évidemment. De toute façon, il n'y a même pas de débat possible.
Donc, Damien, tu choisis Marco Verratti.
Tout à fait. J'assume.
T'es sérieux?
Exactement.
D'accord.
T'inquiète pas.
Ok.
T'inquiète pas.
Parce que t'as appelé ton fils comme ça.
Ouais, non. Il y a eu un truc avant. C'est l'avant. C'est...
Ça marche, ça marche.
Je vais rester dans le subjectif. Juninho, Pernambucano.
Ah ouais, les supporters. Le Parisien, le Lyonnais. Super. Maxime?
Moi, j'aurais bien aimé aller plus haut et dire aller plus haut vers le numéro 10, mais je vais me contenter de ce qu'on a. Et je vais dire, je pense que Xavi, à l'arrivée, n'en sera pas loin. Encore une fois, il lui manquera, je pense, la reconnaissance individuelle dont il a été privé par des acolytes beaucoup plus talentueux individuellement que lui. Et je pense que la portée et ce qu'il a donné au foot, et notamment dans la philosophie et la culture, marquera son époque et bien au-delà.
Moi, je te suis, Maxime, avec Xavi. Pour moi, un meilleur milieu de terrain de l'histoire. Et pour tout ce qu'il a fait, après, il y a des grands noms, c'est un peu compliqué de choisir, mais voilà, pour moi, c'est un peu l'évidence. Oui, Damien?
Je vais revenir, parce que sinon, voilà, on croit que je fais.
Pas un autre nom.
Non, c'est vrai, il y a deux joueurs que je porte dans mon cœur, et c'est avec Patrick Vieira, si je veux, parce que c'est la difficulté qu'on avait, c'est avec les joueurs qui sont encore en activité. C'est difficile de savoir, en fait, la portée qu'ils vont avoir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. On sait pas ce qu'ils vont devenir, on connaît pas leur palmarès. Et du coup, voilà, Patrick Vieira, pour moi, ça a été vraiment, encore une fois, le milieu. Parfait.
Ton joueur préféré.
Exactement.
Et lui, il a passé les quarts de finale de Ligue des Champions.
Ouais, bon, c'est pour entendre des conneries pareilles, j'aurais fait de terre et pas relancer.
Mais il l'a pas gagné, malheureusement. Et, vraiment, on est vraiment sur la fin. Donc, quelle est votre actu à chacun, Maxime? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actu en ce moment chez Eurosport?
Eh ben, Eurosport.fr. J'écris des articles. Je fais aussi des vidéos. Vous pouvez nous voir sur les Facebook Live, notamment le vendredi avec mon acolyte Martin Mosnier. On a une émission à 17h où on parle de football, évidemment. Et puis sinon, après, là, ça, on va doucement vers la Coupe du Monde où on aura une quotidienne live là-bas.
Super, super. David, ton actu?
Moi, donc on peut acheter les cartes de Movieland sur movieland.io. Donc c'est une grande carte avec 1800 films connectés de manière thématique par genre, etc., qu'on peut accrocher dans son salon ou ses toilettes et passer des heures à regarder. Et puis, sinon, on me retrouve dans les podcasts Nos Ciné et Nos Tubes, Nos Ciné pour parler de cinéma très régulièrement. Et puis, je vais faire d'ailleurs présenter une spéciale à Cannes quotidienne. Et puis, Nos Tubes pour parler de YouTube et de toutes les affaires qu'il y a autour de ça.
Parfait. Bon, on va suivre tout ça. Et toi, Damien?
Là, c'est les playoffs qui commencent de NBA. Donc, du coup, vous allez beaucoup me voir sur la plus belle des compétitions. Sinon, je publie une chronique chaque semaine sur... ça va être le 10e épisode avec le site QI Basket sur les médias spécialisés, en fait. J'ai fait le Libéro Lyon, j'ai fait OM Forum, j'ai fait Culture PSG, j'ai fait aussi Trash Talk, etc. Et on va essayer de suivre un petit peu ces médias spécialisés. Et puis à l'automne, je vais sortir un livre aux éditions Marabout sur le Paris Saint-Germain. et sur comment on vit, qu'est-ce que c'est que vivre avec son club, donc en l'occurrence le PSG, mais un truc plus généralement, qu'est-ce que c'est que vivre au jour le jour, parce que je vais tenir une espèce de journal, pas intime du tout, parce que ça va être publié, mais une espèce de journal sur comment vivre au quotidien, en fait, le fait d'être supporter par rapport aux matchs, aux rumeurs, etc. Voilà.
Bah, tu pourras venir en parler ici dans Banquette avec grand plaisir, avec Damien. Plaisir. Messieurs, merci beaucoup d'être venus, d'avoir pris de votre temps pour partager votre Franken Player idéal pour le milieu de terrain. Et puis, je vous dis à très bientôt.
Merci à bientôt. Salut, merci à l'invitation.
Pour réagir à cet épisode, partager votre Franken Player ou soumettre des catégories pour les prochains posts, ça se passe sur nos réseaux Twitter, Facebook et Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous en étoile sur Apple Podcast, mais on comprend mieux quand il y en a 5. Bien sûr, merci à vous les banquettistes pour votre engouement et vos réactions. Et on se retrouve donc dans une semaine déjà pour un prochain épisode de Banquette au format classique. Et je vous dis à très vite pour une prochaine table ronde. Ciao !